السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم. En cette soirée du samedi 24 Jumada الثاني 1429, ce qui concorde avec le 28 juin 2008 بإذن عز وجل. Normalement aujourd'hui c'est un cours dans la Aqida, mais je ne me sens pas d'humeur à faire la Aqida, car la Aqida, il faut être, comment dirais-je, avoir le cœur fort ce jour-là. Aujourd'hui, je me sens faible. J'ai choisi donc la personnalité de la musulmane. Nous sommes, inshallah ta'ala, au cours, 31e cours. Naam. Nous sommes donc au dernier chapitre, dernier grand chapitre, son comportement vis-à-vis de sa société. Dans le douzième mois, on avait vu, elle se garde de la diffamation. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le nouveau chapitre, sous-chapitre, elle se garde de l'ostentation. Donc attendez, Ouraba, tu as écrit après moi. Baraklaou fik, recopie le titre et écrit-le pour qu'il soit lui le dernier. Elle se garde de l'ostentation. Tafadhal. Bismillah. Une musulmane avisée sait que la sincérité dans la parole et dans l'acte est l'essence de la religion, et que toute œuvre, toute bonne œuvre, doit être accomplie pour Allah, sinon elle n'aurait aucune valeur et serait une source d'humiliation au jour de la résurrection. De là, la musulmane se garde d'adopter une attitude ostentatoire ou d'agir dans l'unique but d'être reconnue et approuvée par les gens. L'adoration vouée à Allah Azza wa Jal étant son unique objectif dans la vie, conformément au verset qui dit « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » 51-56. « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Donc, se basant sur ce verset, la musulmane ne saurait bénéficier d'un accueil favorable de sa part à Allah Azza wa Jal. Puisque Allah Azza wa Jal a dit « Il ne leur a été commandé cependant, Allah Azza wa Jal lui vouant un culte exclusif. 98.5. Et il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah Azza wa Jal lui vouant un culte exclusif. Ce verset, si on va le joindre avec celui d'avant, nous allons comprendre deux choses. La première, nous n'avons été créés que pour l'adoration. La deuxième, il ne nous a été demandé et commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Donc le musulman, la musulmane, le croyant, le vrai croyant, la vraie croyante, celui qui aime Allah Azza wa Jal, aime le rencontrer, ravi de lui, doit faire tous ses efforts pour que tout ce qu'il fait, il le fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et cela ne veut pas dire, comme croient beaucoup de gens, que on fait sincèrement la salat, la zakat et le hajj et le siyam. et les autres choses, n'am, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais le sincère et la sincère, ce sont ceux qui, n'am, s'ils parlent, parlent pour Allah. S'ils se taisent pour Allah. S'ils vendent, vendent pour Allah. N'am. S'ils font des amis, c'est pour Allah. S'ils se marient, c'est pour Allah. Et comme ça. C'est-à-dire, avant de faire une chose, même dehors dans la dunya, je vois d'abord cette chose, est-ce que Allah Azzawajal aime que je la fasse ou bien aime que je m'éloigne d'elle. Et ensuite, il verra, est-ce qu'il doit la faire ou bien un mot, il va dire, est-ce que ce que je vais dire, si Allah Ta'ala aime, tu le dis. S'il le déteste, tu te tais. C'est-à-dire, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. Quand l'œuvre d'une musulmane est donc entachée d'ostentation visant la reconnaissance des gens, l'œuvre en question devient invalide et ne mérite ainsi aucune rétribution et récompense de la part d'Allah Azzawajal. Cela est confirmé par le verset coranique suivant où Allah Azzawajal avertit les croyants de faire l'aumône dans un but purement ostentatoire. Et les met en garde contre le sort réservé à ceux qui agissent de la sorte. Donc le verset qui va venir, non seulement, Naam, nous avertit de ne pas être ostentatoire dans nos montres, quel est le sort réservé à celui qui fait de l'ostentation dans ses adorations. Allah Ta'ala dit, ô croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Celui-là ressemble à un rocher recouvert de terre, ou disons de poussière, qu'une averse l'atteigne et elle le laisse dénué. Ensuite il a dit, de pareils hommes ne ticatent. 2.264. Donc écoutez bien avec moi, ô croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Il y a des gens qui font l'aumône. Il y en a beaucoup, beaucoup de musulmans qui font l'aumône, mashallah. Mais certains d'eux annulent leurs aumônes. Car l'aumône peut s'annuler exactement comme les ablutions s'annulent. Quelqu'un qui a fait les ablutions, ensuite va aux toilettes, naam, s'il fait quelque chose, il a annulé ses ablutions. La même chose, l'aumône a deux choses qui l'annulent. Naam, a deux choses qui l'annulent. Disons plusieurs choses, mais deux ont été citées ici. N'annulez pas vos aumônes par un rappel. C'est la première des choses qui annule l'aumône. Comment cela? Naam. Je fais l'aumône ou je donne quelque chose, si c'est billah. Ensuite, naam, je dis à la personne ou bien je dis aux gens, si c'était pas moi, ceci et cela. Naam. Si c'était pas moi qui t'avais donné cet argent, aujourd'hui tu n'aurais pas acheté telle et telle chose. Si c'était pas moi, qui avait construit cette mosquée, personne n'aurait fait la prière aujourd'hui. Celui-là, il a annulé l'aumône qu'il venait de faire, et mieux que cela, pire que cela, il mérite un châtiment. Il mérite un châtiment demain. Car c'est un grand péché de faire cette chose. Et la deuxième chose qui annule l'aumône, ou un tort. Certaines personnes, quand elles font l'aumône, en même temps, elles font tort à celui qui a demandé l'aumône. Comment on lui fait tort? En lui faisant mal, en le poussant, en l'insultant, en lui dire espèce de pauvre, espèce de kada, et on lui dit des mots comme ça, naam. Anne, on lui dit Anne, espèce d'Anne, tiens, toujours toi tu demandes, et comme ça. Naam, tu lui as fait tort, tu lui as fait mal, tu as blessé son cœur, lui déjà il est blessé, naam. Et ici on a fait deux péchés. On a annulé l'aumône et on a fait l'autre péché de lui avoir fait tort. Ce verset indique que le seul fait de rappeler au pauvre une aumône qu'on lui a déjà accordée annule immédiatement la rétribution. Allahu Akbar. Exactement, regardez l'exemple, comme une averse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dénue rapidement un rocher de la terre qui le couvrait. Il y avait un rocher plein de terre ou plein de poussière. Ensuite, une forte averse va tomber du ciel. Qu'est-ce qu'elle va faire? En quelques secondes, si elle est forte, le rocher sera dénué. Mashallah, il sera blanc comme il était brillant. Alors qu'il était tout marron, plein de poussière ou bien de terre. mieux. Le verset se termine ensuite par la confirmation que les gens atteints d'ostentation ne méritent pas l'orientation. Allah ne les guide pas, il a dit Allah ne guide pas. Naam. Ne méritent pas l'orientation d'Allah vers le droit chemin et qui sont considérés comme mécréants. Cela pourrait paraître sévère, mais il faut se rappeler que l'ostentation est une forme subliminale du polythéisme et que le souci principal des gens atteints d'ostentation est l'approbation des gens et nullement l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala dit à leur sujet, Coran 442, quand ils se lèvent pour accomplir la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation. À peine invoquent-ils Allah Azza wa Jalla. Donc, celui qui fait l'ostentation, il ne cherche que les gens, ne cherche pas Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla, puisque tu ne le veux pas, il te laisse avec quoi? Il te laisse avec ton adoration. Il te dit, va chez la personne pour laquelle tu viens de faire cette, ou devant laquelle tu viens de faire cette salat, et dis-lui demain, c'est elle qui va te donner la récompense. Naam. Ou bien, naam, dis à cette personne devant laquelle tu as fait l'aumône, car tu ne voulais pas faire l'aumône. Quand tu as vu que les gens te regardaient, tu as fait l'aumône. Alors, demain, demande à ces gens de te faire entrer au paradis, ou bien de te préserver du châtiment qui t'attend pour avoir fait l'ostentation. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit, quand ils se lèvent pour accomplir la prière, ils se lèvent avec paresse et pas ostentation. Quand quelqu'un ne fait pas la chose pour Allah, il se lève avec paresse. Non, paresse. Non. Les œuvres des personnes malades, car c'est une maladie, les œuvres des personnes malades d'ostentation sont donc rejetées parce que dans leurs intentions, ils auront associé des humains à Allah Azza wa Jalla. Or, Allah n'accueille favorablement que les œuvres vouées exclusivement à lui. D'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala a dit, donc voilà un hadith Qudsi, Allah Ta'ala a dit, je suis celui qui se passe de tout polythéisme, de tout shirk. Je suis celui qui se passe de tout shirk. Quiconque accomplit une œuvre en m'associant, quelque être que ce soit, je le laisserai, je l'abandonnerai à ce qu'il m'a associé. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Naam. Au lieu de faire la chose seulement pour Allah, tu l'as faite, naam, pour Allah, mais aussi pour telle personne. Car tu as vu cette personne, naam, maintenant tu veux faire l'aumône. Donc, en même temps, tu dis, c'est pour Allah, et en même temps, s'il n'y avait pas cette personne qui m'avait vu, je n'aurais pas donné. Alors, Allah Ta'ala te dit, je n'accepte pas, parce que nous sommes deux. Nous sommes moi, et la personne, naam, que tu as donné à cause d'elle. Il te dit, je te laisse toi, et mon associé, toi et la personne que tu as associée à moi. Je vous laisse les deux, je vous abandonne. Et demain, va demander à la personne, naam, la rétribution. Par conséquent, pourquoi? Parce que Allah Ta'ala est riche, naam, il n'a pas besoin d'associé. Naam. Par conséquent, la musulmane qui participe à des œuvres caritatives doit se garder d'ethnique objectif et d'être citée et reconnue dans les cérémonies publiques. Naam, surtout les femmes, bien sûr, c'est connu qu'elles aiment cela. Naam, peut-être plus que les hommes. Les hommes aussi aiment cette chose. Mais peut-être la femme un peu plus. Naam, elle veut toujours un peu se montrer plus que les autres. Naam. La pieuse doit s'éloigner de toute forme d'ostentation et vouer ses actes exclusivement à Allah Azza wa Jal, n'aspirant ainsi qu'à son agrément. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam explique cette question de manière exhaustive dans le hadith suivant. Car d'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah a dit, le premier à être jugé parmi les gens, c'est-à-dire demain, sera un homme qui aura été mort en martyr, shahid, masha'Allah, shahid. On le ramènera et Allah ta'ala lui fera connaître les bienfaits qu'il lui a accordés. Alors l'homme reconnaîtra les bienfaits. Et Allah Ta'ala lui dira, qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait avec les bienfaits que je t'ai donnés? Il répondra, j'ai combattu pour toi jusqu'à ma mort en martyr. Hein? J'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je sois mort en martyr. Tu mens, dira Allah Azzawajal. Tu as combattu pour qu'on dise quel brave homme, quel courageux est-il. Et on l'a déjà dit. Puis Allah Azzawajal ordonnera qu'on l'emmène et qu'on le traîne sur le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Ça, c'est la première personne. Donc, hein, pas tous les martyrs auront le statut de martyr. Vous voyez, vous venez de voir que quelqu'un, hein, qui se croyait martyr et que les gens croyaient martyr, eh bien, c'est le premier qui va être jeté en enfer. Subhanallah al-Azim. Il y aura aussi un homme qui aura acquis le savoir et qui l'aura enseigné et qui aura appris le Coran. On le ramènera. Allah lui fera connaître les bienfaits qu'il lui aura accordés. Alors l'homme les reconnaîtra alors. Allah lui dira, qu'en as-tu fait? L'homme répondra, j'ai acquis le savoir, je l'ai enseigné et j'ai appris le Coran pour toi. Allah Azza wa Jalla lui dira, tu mens. Tu as plutôt acquis le savoir pour qu'on dise, quel savant. Et tu as appris le Coran pour qu'on dise, quel récitant. Et on l'a déjà dit. Puis Allah Ta'ala ordonnera qu'on l'emmène et qu'on le traîne sur le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Naam. Tayyib. Il y aura enfin un homme que Allah Azza wa Jalla aura comblé de largesse et lui aura accordé diverses sortes de richesses. On le ramènera et Allah Ta'ala lui fera connaître les bienfaits qu'il lui aura accordés. L'homme les reconnaîtra alors et Allah Ta'ala lui dira, qu'en as-tu fait? Il a dit, je n'ai laissé aucune des voies dans lesquelles tu aimes qu'on dépense sans y dépenser pour toi. Allah Ta'ala lui dira, tu mens. Tu as agi ainsi pour qu'on dise, quel homme généreux, et on l'a déjà dit. Puis Allah Ta'ala ordonne qu'on l'emmène et qu'on le traîne sur le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Hadith rapporté par Muslim. Naam. Et on rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ébruite, hein, il veut qu'on entende, celui qui ébruite son œuvre pour se vanter, Allah ébruitera son intention. Et celui qui agit pour être vu par les gens, Allah fera voir son intention ostentatoire. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Allahu Akbar. Hadith yani très grave. Je reviens à ce hadith. Donc vous voyez les trois personnes qui seront les premiers à être les combustibles de l'enfer. Que Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Car même si on va rentrer en enfer, yani ce n'est pas comme celui qui va rentrer le premier. Car celui qui va rentrer le premier, naam, c'est celui dont Allah Azza wa Jalla, c'est quelqu'un qui Zama est mort en martyr. Et le deuxième, c'est qui? C'est quelqu'un Zama qui a pris le Coran et la science pour Allah Azza wa Jalla. Et le troisième, c'est quelqu'un qui quoi? Qui Zama a donné son argent, etc. Fisabillah. Donc ces trois personnes ont un point commun. Quel est le point commun? Tous les trois n'étaient pas sincères. C'est dire que la sincérité, c'est vraiment yani, la base du dîn. Sans sincérité, il n'y a pas de din. En fait, c'est quoi la différence entre l'hypocrite et le croyant? Même c'est la sincérité. Le croyant fait des choses pour Allah Azza wa Jalla. L'hypocrite les fait pour les gens. Les fait pour les gens. Naam. Et là, quand il dit le deuxième, il dit l'homme, hein, dira, j'ai acquis le savoir, je l'ai enseigné et j'ai appris le Coran pour toi. J'ai appris le Coran pour toi. Allah Ta'ala lui dira, tu mens. Tu as acquis plutôt le savoir pour qu'on dise savant. Et tu as appris le Coran pour qu'on dise récitant. Et il ordonnera qu'on l'emmène et qu'on le traîne sur le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Ce hadith est vraiment, yani, vraiment difficile pour ceux, naam, qui demandent la science. Et ceux aussi qui font les doros. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup de savants ont peur quand ils entendent ce hadith. Il n'y a pas quelqu'un qui fait les doros et qui n'a pas peur, qui se dit peut-être je suis dans le hadith. Sauf bien sûr si la personne ne le fait pas pour Allah. Si la personne ne le fait pas pour Allah, elle n'aura pas droit à mort. À dire là je suis masha'Allah, je fais pour les gens. Mais toute personne qui a un peu de sincérité, quand elle entend ce hadith, elle a peur. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, avant de faire les doros, elle regarde et elle se parle à elle-même et elle se dit, est-ce que ce que je vais faire, c'est fisabilillah ou la cause des gens? Ou la cause des gens pour qu'ils disent de moi que j'ai de la science et que je suis ceci, je suis cela. Et si quelqu'un est atteint d'ostentation, c'est grave, et beaucoup de fois incurable. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, s'ils ne font pas de doros, ils ne se sentent pas bien. Ils disent non, moi, tant que je n'ai pas un salon, tant que je ne fais pas de doros, c'est pas ça. Il faut que j'arrive à ce point, sinon non. Et tout cela est faux, bien sûr. C'est pour ça que quand tu demandes la science, mon frère et ma soeur, ne la demande pas en te disant dans ma tête pour que je sois un savant. Non, pour que je sois un savant et que j'apprenne aux gens ici. Demande-la dans le but de quoi? Dans le but de plaire à Allah Azzawajal. Demande-la dans le but que c'est une chose obligatoire. Que tu es en train de demander une chose obligatoire. Non, demande-la pour avoir des récompenses demain quand tu vas rencontrer Allah Ta'ala. Maintenant, si Allah Ta'ala va t'ouvrir la porte de faire les doros, d'être un savant, tu remercies Allah Azzawajal. Naam, tu remercies Allah Azza wa Jal. Naam. Je connais une personne, c'est une sœur. Quand je dis je la connais pas personnellement, mais elle m'a contacté une fois pour me dire que j'ai atteint un niveau de science, mashallah, mashallah. Elle m'a dit ensuite, naam, subhanallah al-adhim, elle a été sincère. Elle m'a dit ensuite, je sentais que quand j'étais avec mes sœurs, etc., qu'elles ne valaient rien devant moi. Ce sont comme des mouches, elles ne valent rien devant moi. C'est moi qui ai la science, ce ne sont pas elles. Naam. Et j'avais une sorte de mépris envers elles, subhanallah l'adhim. Elle m'a dit, Allah Azza wa Jal m'a puni, m'a enlevé toute la science. Je ne connais maintenant même pas un hadith ou l'inverse. Moi qui avais un statut, mashallah, et qui guidait les sœurs et les orientait, et leur faisait la nasiha, elle me dit maintenant, mon cœur s'est vide et je n'ai rien dans la tête. Allah Ta'ala est tourné. Que Allah Azza wa Jal nous ont préservé. Elle est sincère et qu'elle a regretté. Que Allah Azza wa Jal, yani la récompense est perdue. Quatorzièmement, elle est équitable. Pour Whisper, d'accord. Pour Whisper, je dis d'accord. Je n'ai pas oublié le rendez-vous, Inch'Allah. Elle est équitable. Il arrive que la musulmane se trouve confrontée, écoutez bien ce qui va venir, surtout pour les sœurs. Il arrive qu'une musulmane se trouve confrontée à une situation où l'on lui demande son avis ou sa sentence concernant un différend ou un litige. Ou bien, j'ajoute, il y a une dispute ou une altercation. Elle doit savoir que c'est dans des situations pareilles que sa foi, sa piété et son bon sens doivent se manifester. Naam. Une musulmane avisée est forcément équitable, elle est juste. Quelles que soient les circonstances ou les personnes en litige, elle ne saurait juger leurs différends en étant partiale, naam, en étant injuste, ou en fonction de ses propres penchants. Elle sait en effet que la justice, l'équité est l'essence même de l'islam et que les textes l'ont ordonné de façon claire, catégorique et explicite, ne laissant ainsi aucune place à l'interprétation ou à la négligence. Il s'agit d'une équité saine et objective, exempte des sentiments d'amour ou de haine et distante et loin des considérations de parenté ou de penchant personnel. Naam. Allah Ta'ala a dit 4:58. Certes, Allah Ta'ala, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Et quand vous jugez, nam, entre les gens, de juger, nam, avec équité. Allah Ta'ala aussi a dit, ô croyants, soyez stricts, ô croyants, soyez stricts dans vos devoirs. Ô croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez témoins équitables. Que la haine pour un groupe de gens ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, la justice. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ensuite, Allah Azza wa Jal a aussi dit, quand vous jugez, soyez équitable. Soyez équitable. Même s'il s'agit d'un proche parent. Donc, en islam, naam, quand on doit juger, il n'y a pas les penchants. Il n'y a pas de dire celui-là je le connais, celui-là je ne le connais pas. Il n'y a pas de dire celui-là c'est de ma famille, celui-là c'est un étranger. Si on va juger entre les gens, on doit juger pour Allah Ta'ala. Naam. Celui qui a raison, on dit celui-là a raison, même si c'est notre grand ennemi. Même si c'est mon père, ma femme ou bien ma mère. Naam. Même si c'est ma mère, mon père ou bien ma femme. Je dis, c'est cette personne qui a tort. C'est ça l'islam, c'est ça la sincérité. En matière de justice et d'équité, comme dans les autres domaines, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un modèle inégalable. On rapporte à ce sujet qu'une fois, il décida de couper pour vol, la main d'une femme appartenant à la tribu de Bani Makhzoum, une tribu très connue, hein, pour un vol qu'elle avait commis. Alors Usama ibn Zayd, qu'il chérissait tant, son fils adoptif, vint alors intercéder auprès de lui en faveur de la femme. Vint voir le messager d'Allah pour lui demander l'intercession et de ne pas lui couper la main. Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'apprécia point cette démarche de la part de Usama et lui a dit d'un ton réprobateur, oses-tu, ya Usama, oses-tu intercéder alors qu'il s'agit d'une peine déterminée par Allah, par les serments d'Allah. Si c'était Fatima, c'est-à-dire ma fille, la fille de Muhammad, qui avait commis le vol, je lui aurais coupé la main. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et nous, on témoigne pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même si on l'a pas vécu avec lui, on témoigne, naam, pour lui, pour Allah Ta'ala, que si sa fille Fatima volait plus de 1,25 g d'or, que le messager d'Allah lui aurait coupé sa main, même si c'était sa fille. Je témoigne devant Allah qu'il lui aurait coupé la main, tellement il est juste, sallallahu alayhi wa sallam, et équitable. Donc vous voyez ici, il n'a pas accepté l'intercession de Usama ibn Zayd, son fils qui chérissait tant, son fils adoptif. Et il lui a même fait des reproches. Oses-tu intercéder alors qu'il s'agit d'une peine demandée par Allah Azza wa Jal, déterminée par Allah Azza wa Jal? Non. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle volait. Et ça c'est la version de Bukhari. La version de Muslim dit que cette femme niait. Qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Elle va chez les gens. Salam alaikum, salam alaikum. Pouvez-vous, par exemple, elle dit à une femme, par exemple, qui est son amie ou là, une voisine ou là, peux-tu me prêter, par exemple, ta bague d'or, j'ai un mariage, car les bijoux, l'emprunt des bijoux se faisait du temps des selfs. Et ce n'est pas interdit. Ah, même au temps des selfs, on faisait les emprunts des habits et des bijoux pour les mariages et les fêtes. Elle prend le bijou, elle prend la bague, ensuite, tu la rencontres après un mois, deux mois, trois mois, naam, tu lui dis la bague, tu lui dis je n'ai jamais pris de bague de toi. Ou bien elle te dit quoi? Elle te dit je t'ai donné, tu as oublié, on s'est rencontré dans la mosquée, je t'ai donné, et comme ça. Donc elle niait. La version de Muslim dit, elle niait les choses après les avoir prises. Tayyip, ensuite il dit, c'est cela qui distingue la notion de justice musulmane de celle adoptée par les autres sociétés. En islam, la justice est globale et absolue. Elle s'applique à tout le monde, aux grands comme aux petits, aux notables, à l'instar de la plèbe, et aux musulmans aussi bien qu'aux non-musulmans. Même les non-musulmans, naam, ils ont leurs droits. Naam. Concernant le dernier point, les non-musulmans, l'histoire a conservé les détails d'un procès qui n'a cessé d'attirer l'admiration des magistrats et des juges à travers le temps. En effet, l'histoire nous apprend ainsi qu'à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, et vous remarquez ce que je dis Ali ibn Abi Talib, et je n'ai pas dit l'imam Ali. Ceux qui disent l'imam Ali, ce sont ou bien les chiites, ou bien ceux qui ne savent pas. Ils le disent avec sincérité, comme ça, sans savoir. Mais en disant l'imam, ça veut dire les trois autres ne sont pas des imams. C'est lui le imam, c'est tout, comme disent les chiites. Naam. Et j'ai dit quoi? Ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. J'ai dit que Allah Ta'ala l'a gré. Je n'ai pas dit, karramallahu wajahu. Je n'ai pas dit, comme disent les chiites, que Allah Azza wa Jal, yani, je ne sais pas comment, sa figure. Ils disent la figure, son visage, karramallahu wajahu. Naam. Mais je dis, radiyallahu ta'ala anhu. Al-Muhim. L'histoire nous apprend ainsi qu'à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il le convoqua. Le juge Shuraïch convoqua Ali ibn Abi Talib en tant que commandeur des croyants. Naam, il le convoqua pour le confronter à qui? Un juif accusé de lui avoir volé son bouclier. Alors Shuraïch, le magistrat, avait beaucoup d'estime pour Ali ibn Abi Talib. Et c'était lui le calife. Mais cela ne l'empêcha pas de le convoquer avant de s'adresser à lui comme il s'adressa au justiciable juif. Ensuite, et en dépit de sa conviction intime que Ali ibn Abi Talib disait vrai, il demanda aux non-musulmans d'étayer son accusation de vol par quelques preuves. Ce juif a dit que Ali lui avait volé le bouclier. Alors il demanda, le juge lui demanda, donne-moi des preuves. Ce n'est pas comme ça on dit X a volé, donne des preuves. Naam. Et Ali ibn Abi Talib, le juge savait qu'il n'avait pas volé, c'est impossible qu'il vole. Mais la justice veut qu'il soit présent et qu'il entende de lui. Naam. Et comme Ali ibn Abi Talib n'en avait aucune preuve, alors Shuraïch, attendez une seconde, Naam. C'est le contraire, c'est Ali ibn Abi Talib qui avait accusé le juif. Naam. Et comme Ali ibn Abi Talib, le juge savait qu'il ne mentait pas, Naam. Mais quand même, il a demandé aux juifs, Naam, de donner des preuves qui n'étaient pas accusées. Et il a dit ici, et comme Ali ibn Abi Talib n'en avait aucune preuve, alors Shuraïch prononça son verdict en faveur du juif, c'est-à-dire qui l'a libéré. Car Ali ibn Abi Talib n'avait aucune preuve sur lui ici. Naam, il faut, comme vous savez, deux témoins ou bien un papier ou quelque chose comme ça qui prouve. Naam, fait isolé ou rare dans l'histoire des musulmans. Il est confirmé par plusieurs autres procès similaires, ce qui prouve que la justice et l'équité sont une valeur morale et sociale indissociable de la société musulmane, tant que celle-ci demeure fidèle aux enseignements de l'islam. Naam. Aspirer à être équitable sur le plan du propos et de l'acte signifie forcément qu'on s'écarte le plus possible de l'iniquité et de l'injustice. Une musulmane pieuse et soucieuse d'être juste dans ses propos et dans ses actes s'éloigne de l'injustice, car celle-ci est catégoriquement interdite par l'islam qui, en outre, nous informe qu'elle se transformera, c'est-à-dire l'injustice, elle se transformera demain en ténèbres, le jour de la résurrection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala a dit, voilà un autre hadith Qudsi. Non. Allah Ta'ala a dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai interdite. Ne commettez donc pas d'injustice les uns à l'encontre des autres. Hadith rapporté par Muslim. Regardez, Allah Ta'ala a dit, ô mes serviteurs, je me suis voulu être injuste. Est-ce que quelqu'un peut lui dire pourquoi? Qui de nous, ou de qui des messagers, peut dire à Allah, ya Allah, pourquoi vous êtes injuste, s'il était injuste, astaghfirullah. Mais Allah Ta'ala, pour que, nous aussi, Nous aussi, on se conforme à ce qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice. Pour que ça soit une leçon pour nous. Pour qu'on se dise, Allah ta'ala qui peut tous permettre ce qu'il veut, s'est interdit l'injustice. Comment moi vais-je être injuste, moi qui, si je vais être injuste demain, j'aurai des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit aussi, gardez-vous d'être injuste, car l'injustice se transforme en ténèbres au jour de la résurrection. Subhanallah al-Azim, hadith rapporté par Bukhari. Il dit ici, si Allah Azza wa Jal, le créateur, le souverain, le contraignant et l'inaccessible, c'est lui-même interdit l'injustice et l'a interdite à ses serviteurs. Permettre à l'encontre de son prochain, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, particulière l'injustice émanant d'un croyant à l'encontre de son co-religionnaire, quels que soient les prétextes ou les circonstances. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, écoutez le hadith, hadith rapporté par Bukhari, et le hadith passé était rapporté par Muslim et non pas par Bukhari. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est le frère du musulman. Il ne le laisse point, il ne l'abandonne jamais. Quiconque subvient aux besoins de son frère, Allah subviendra à ses besoins. Quiconque délivre un musulman d'une souffrance, Allah le délivrera de l'une des souffrances survenant le jour de la résurrection. Quiconque dissimule les défauts d'un musulman, Allah dissimulera les siens le jour de la résurrection. Naam. Donc pour ceux et celles qui se plaisent à dévoiler les musulmans et les musulmanes, on leur dit quoi? Naam. On leur dit que Allah Ta'ala, naam, vous dévoilera, vous aussi, même si vous allez dans le fin fond de votre maison vous cacher. Allah Ta'ala viendra le jour où il va aussi dévoiler quoi? Vos défauts et vos secrets. Car le hadith ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quiconque dissimule les défauts d'un musulman. Quand je trouve des défauts chez mon frère, et je trouve des défauts chez ma soeur, naam, je lui fais une nasiha en tête à tête. Entre lui et moi, et entre elle et moi, en tête à tête, c'est tout. Et je lui dis, tu as telle et telle chose, naam, tu as telle et telle chose, c'est parce que je t'aime en Allah Azza wa Jalla que je te dis cela. Naam. Je voudrais te dire telle et telle chose, et c'est sûr, inshallah ta'ala, si on lui fait ça sincèrement, que la personne acceptera, naam, sans oublier les récompenses qu'on a. Et quiconque se plie à divulguer, Allah ta'ala divulguera aussi ses défauts. Donc ce hadith nous apprend que le vrai musulman, homme ou femme, ne doit pas se contenter d'être juste envers son prochain, surtout son co-religionnaire, qui ils ont le même dîme, le même minhaj, mais aussi, il doit lui venir en aide et ne pas l'abandonner. En outre, il doit subvenir à ses besoins en cas de gêne. Naam. Beaucoup de frères et de sœurs, Allah Ta'ala leur a donné, masha'Allah, par exemple, de l'argent. Mais jamais, ils ne pensent à aider, naam, les gens qui sont nécessiteux. Beaucoup de frères connaissent des frères qui sont vraiment dans le pétrin et qui n'arrivent pas, qui sont mariés, qui ont des enfants. Et vous trouvez des frères que Allah Ta'ala leur a ouvert des portes de bien, masha'Allah. C'est pas combien qu'ils touchent par mois. Et jamais il ne dit, je vais aider mon frère qui n'en a pas en lui donnant seulement 10 euros par mois. Je vais l'aider, inshallah ta'ala, tant que ma paye, masha'Allah, je vais lui donner chaque fois 10 euros par mois ou les 5 euros, disons. Non, c'est rien 5 euros, c'est pour acheter des bonbons. Mais au moins j'ai fait le geste. Et la même chose, c'est les sœurs. Il y a des sœurs qui sont riches, naam, et qui, naam, ne pensent pas un instant aux autres sœurs et aux mères et qui ont des enfants, qui ont des bébés, qui ont des charges, qui ont des dettes, et qui ont ceci, qui ont cela, naam, elles ne pensent qu'à elles-mêmes. Elles ne pensent qu'à elles-mêmes. Le hadith a dit, naam, naam, il a dit, en outre, il doit subvenir à ses besoins en cas de gêne, le délivrer de ses peines. Quiconque délivre quelqu'un d'une peine de cette vie, Allah Ta'ala, demain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le délivrer d'une peine et d'une souffrance de demain. Imaginez les peines de demain et les souffrances de demain. Ce n'est pas comme les peines d'ici. La peine d'ici, tu as des dettes. Qui a ouvert la porte et qui attend qu'on te jette à l'intérieur. Et voilà qu'Allah Ta'ala te dira, tu te souviens quand tu as aidé X, quand il était dans le... les problèmes, tu dis Naam ya Allah. Il te dit aujourd'hui, je vais te délivrer, Naam, de cette peine, j'allais te jeter en enfer. Et il va yani, t'épargner. Subhanallah. Et il a dit, le délivrer de ses peines et ne pas divulguer ses défauts. Ne pas divulguer ses défauts. Il en ressort donc que manquer à ses recommandations est l'une des formes d'injustice envers le musulman. Et que cela risque d'entacher les liens de fraternité entre les croyants. Naam. Comme dit toujours Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit une chose, yani, ses paroles, les paroles de Ibn Taymiyyah, normalement, on aurait tout écrit ce qu'il a dit en or avec de l'or, une plume en or, et l'encre serait de l'or. Entre autres, il a dit, en ce qui concerne les disputes qui se passent entre les frères et entre les sœurs, il a dit, à chaque fois que deux musulmans se disputent, ou là, deux personnes en général, naam, c'est que naam, les deux personnes n'ont pas reconnu les droits mutuels. Les droits mutuels. C'est-à-dire que moi, quand je me dispute avec une personne, ça veut dire que cette personne, naam, a des droits sur moi et moi, je ne veux pas les reconnaître. Naam, je ne vois que maslahti, je ne vois que mes intérêts. Naam. Je ne pense pas à tes droits à toi. Et toi, tu ne penses qu'à toi et à tes intérêts, non, et tu ne cherches pas à connaître quels sont mes droits. C'est pour ça que la plupart des disputes arrivent. Non. C'est pour ça que la plupart des gens ne peuvent pas se réconcilier après les disputes. Pourquoi? Parce qu'ils sont avares, ils sont égoïstes. Non. Ils ne disent pas quand même cette personne avait des biens, quand même cette personne a fait du bien. Quand même cette personne m'aidait en ceci, en cela. Quand même cette personne, combien de fois, Nam, elle m'a donné de l'argent. Combien de fois, Nam, quand j'étais par terre, elle m'a soulevé. Combien de fois, quand j'étais malade, elle est venue me voir à l'hôpital. Combien de fois, Nam, quand j'ai eu des problèmes, je l'ai trouvée devant moi. Combien de fois, quand elle tombait dans les soucis, etc., Nam, elle me téléphonait et me secondait et me soutenait. Quand on oublie tout cela, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas faire la réconciliation, car on est avare et on est égoïste. Non. Comme nous l'avons vu à travers les textes précédents, la justice en islam est une valeur globale et absolue. Elle doit être appliquée indépendamment de toute considération. Non. L'islam, précisons-le, interdit l'injustice contre tout être humain. Non, tout être humain, il est interdit que tu sois injuste envers lui. Car Allah Ta'ala ordonne l'équité et la justice et interdit l'iniquité vis-à-vis de tous les humains. Écoutez bien, ce n'est pas vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de tous les humains. Allah Ta'ala a dit, Coran 68, il a dit, Allah ne vous défend pas, c'est-à-dire ne vous interdit pas d'être équitable et bienfaisant envers ceux qui ne vous ont pas combattu en religion. Et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah Ta'ala aime les justes. Vous avez bien entendu le verset, hein? Pour les takfirions, s'il y a quelques-uns dans les salons, ça m'étonnerait, mais peut-être que certains viendraient pour espionner, etc. Non, les takfirions, si vous êtes ici dans le salon, non, pour espionner ou là, écoutez ce qu'Allah Ta'ala a dit. Allah Ta'ala ne vous interdit pas d'être juste, ça veut dire il faut être juste et bienfaisant envers ceux qui ne vous ont pas combattu en religion. Naam. Et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Naam. Si une personne, naam. Si quelqu'un veut dire, par exemple maintenant, les Juifs ont fait ceci, les Américains ont fait ceci. Je te dis ça. Ça, les Américains ont fait, les Juifs ont fait. Mais, est-ce que cette personne, Jacques, monsieur Jacques Dupont, qui est en face de toi, le voisin, et qui est un Américain ou bien un Juif. Est-ce qu'il a participé, il est en train de tuer avec eux? Ou là, c'est seulement un Américain et un Juif, et tu veux, toi, le faire rentrer dans le groupe avec les autres? Non. Allah Ta'ala dit, tant que celui-là n'est pas un combattant qui te combat, non, ni t'a chassé de ta maison, il faut être juste avec lui et équitable. Si ce sont les Américains ou les Juifs, sa race, qui ont fait cela, ce n'est pas lui. Non. Si c'est son père, ce n'est pas lui. Si c'est son fils, qui est pilote d'avion et qui a bombardé Palestine, non, c'est son fils, ce n'est pas lui. Attention, tu te trompes. Donc les takfiriyoun, tout ce que vous faites, les vols des kofars et les bombes que vous faites, et comme dit Salah 19, que vous pouvez voler les banques, et tout ça, naam, ce sont les grands péchés. Naam, tout ça, ce sont les grands péchés. Le musulman n'a été jamais voleur, il ne volera ni un juif, ni un américain, ni un kafir. Tant que, naam, je ne suis pas en guerre avec lui, avec cette personne, bidabt. Naam. Subhanallah al-Azim. Même quand le croyant éprouve, même quand le croyant éprouve un sentiment d'injustice vis-à-vis, d'inimitié. Il y a l'amitié, il y a l'inimitié. Des fois, il y a certaines personnes, par exemple, qu'on n'aime pas. Cela ne doit pas nous pousser à adopter une attitude injuste à leur encontre. Vous avez remarqué qu'il y a des personnes qu'on n'aime pas. Même, est-ce que moi, par exemple, j'aime tout le monde, j'aime tous les musulmans? Non, j'aime les musulmans en général. Mais je n'aime pas toutes les personnes au même degré. Il y a des personnes envers lesquelles je suis neutre. Non, ni je les aime, ni je les aime pas. Et il y a certains que je déteste, parce qu'ils ont tel et tel, par exemple, caractère ou tel mauvais comportement. Ici, il a dit, même si on ressent de l'inimitié vis-à-vis de certaines personnes, non, on ne doit pas adopter une attitude injuste en leur encontre. Il arrive par exemple, musulmane, pour incompatibilité d'humeur, ne soit pas en parfait accord avec sa belle-mère ou sa belle-sœur ou toute autre femme. Cela constitue une réalité généralement répandue dans beaucoup de foyers. Est-ce que vous connaissez un foyer où la femme dit que elle s'entend très bien avec sa belle-mère? Naam. S'il y a, ça se compte sur le bout des doigts. C'est-à-dire, la règle générale, c'est quoi? C'est que la femme ne s'entend pas avec la belle-mère. C'est ça la règle générale. En effet, il dit, conformément à un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, les âmes sont semblables à des soldats enrégimentés. Celles qui se reconnaissent, les âmes qui se reconnaissent mutuellement, s'accordent entre elles. Tandis que celles manquant d'affinité entre elles, ne se mettent pas en symbiose. Allahu Akbar, c'est un hadith rapporté par Muslim, sahih. Hein, vous avez remarqué que des fois une personne, hein, on la rencontre une seule fois, on l'aime. Vous avez remarqué ça. Hein? Le frère, hein, il rencontre une frère pour une fois, subhanallah al-Azim, il lui plaît, il rentre dans son cœur, il l'aime, il lui donne, donne-moi ton numéro de téléphone, et ils deviennent des amis intimes. Et la sœur rencontre la sœur, la première fois, elle dit, mashallah, tu m'as plu. C'est des affinités, pourquoi? Parce que les âmes sont comme des soldats enrégimentés. Quelqu'un qui est soldat, quand il rencontre l'autre soldat qui est de son camp, ce sont comme des frères. Mais quand il rencontre l'autre soldat qui est un ennemi, ça change tout. Naam. Il a dit, et il y a d'autres, bien sûr, d'autres personnes, quand on les rencontre, subhanallah al-Azim, il n'y a pas d'affinité entre nous. Des fois, le fait seulement de voir une personne, on ne se sent pas à l'aise. Et si maintenant elle commence à parler, ça devient plus grave. Là, on dit, Allahu Akbar, yani ça, mon cœur ne penche pas vers cette personne. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas seulement il n'y a rien, il y a la masse. Il y a la masse. Tu te dis, quand est-ce que je vais partir, ou là, quand est-ce qu'elle se taise, ou là, quand est-ce qu'elle se lève. Il y a des gens comme ça. Naam. Pourquoi? Nos âmes n'ont pas trouvé d'affinité. Je dis, même dans une situation pareille, je n'ai pas le droit d'être injuste. Je dis, puisque j'ai pas aimé cette personne, donc, si elle a raison, je lui dis, tu as tort. C'est impossible. Ce n'est pas comme ça le musulman. Donc, il dit ici, écoutez la question suivante. Mais comment la femme imprégnée des principes de l'islam doit-elle donc agir dans des situations pareilles? Doit-elle adopter une attitude négative? Ou bien doit-elle au contraire être aimable et équitable même avec celles qu'elle n'aime pas? Réponse, bien évidemment, est qu'une musulmane éclairée par les enseignements de l'islam doit se comporter de manière équitable, courtoise et aimable. Aucun de ses dires ou de ses actes ne doit trahir l'aversion, c'est-à-dire la haine ou l'indifférence, qu'elle éprouverait vis-à-vis de certaines personnes. elle doit plutôt refouler de tels sentiments en affichant une attitude gentille et courtoise. Car telle fut la conduite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu rapporte que notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha l'avait informé, elle a informé qui? Le frère de sa, le fils de sa sœur, le fils de Asma. Elle l'a informé qu'une fois, écoutez bien ce qui va venir, une fois, un homme ayant demandé la permission de voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit qui c'est cette personne? On lui a dit c'est X. Qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit quel abominable fils de la tribu. Naam, bi'sa akhul ashira. Ou bi'sa al-ashira. Il a dit, bien sûr, sans que l'autre personne l'entende. Sans que l'autre personne l'entende. C'est dans la maison. Il a dit qui frappe à la porte? Qui veut me voir? On lui a dit X. Il a dit quel abominable fils de la tribu. C'est-à-dire, il n'a pas bien dit de lui, bien sûr. Et après que l'homme fut autorisé, d'entrer, le prophète alayhi salatu salam lui parla avec bienveillance. Je lui ai dit, ô messager d'Allah, après avoir dit ce que tu as dit à propos de cet homme, et ensuite, compte là, tu as dit des choses sur lui comme ça, yani qui montrait que tu détestais sa venue. Et maintenant, quand il est rentré, tu as dit, Hayakumullah, comment allez-vous? Tfadlal, tfadlal. Subhanallah, il a dit, j'ai pas compris ça. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu, ô Aïcha, l'homme qui aura la pire position, c'est-à-dire demain auprès d'Allah, est celui que les gens délaissent pour éviter sa grossièreté. Hadith rapporté par Bukhari. Vous avez entendu, l'homme qui aura la pire position demain devant Allah Azza wa Jal est celui que les gens délaissent pour éviter sa grossièreté. Naam. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes, naam, il y a des personnes qui on est obligé de leur sourire et d'être courtois avec eux et de leur montrer l'amabilité, sinon ils risquent de nous faire du mal. Vous allez dire, naam, mais pourquoi yani, ne pas lui faire la nasiha directement? Je dis, pas tout le monde accepte la nasiha. Est-ce que tout le monde accepte la nasiha? Il y a des personnes qui sont enflées d'orgueil, qui n'acceptent pas la nasiha. Et il y a des gens auxquels aussi on a honte de faire la nasiha, par exemple. Ils n'acceptent pas. Il y a des gens aussi qui sont bornés. Naam, il y a des gens qui sont bornés. Yani, il n'a pas assez d'intelligence ou de maturité pour qu'ils comprennent. Naam, celui-là, c'est pas la peine de faire la nasiha, il ne va pas comprendre. Et en même temps, si c'est quelqu'un qui fait mal, soit en parlant beaucoup, soit en calomniant, soit ceci. Donc celui-là, pour comment je vais faire? Naam, si maintenant je ne vais pas l'accepter, si je ne vais pas lui parler, si je ne vais pas lui ouvrir la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire beaucoup de problèmes. En parlant sur moi, en me critiquant, peut-être en me calomniant, en ceci, cela. Donc je suis obligé de quoi? De lui sourire et d'être courtois avec lui, comme a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous avertis que cette chose ne rentre pas dans l'hypocrisie. Naam, ça rentre dans l'hypocrisie quand quelqu'un, on lui fait la nasiha, etc. Naam, on ne veut pas lui faire la nasiha. Naam, on joue double face avec lui. Mais quand quelqu'un il est de nature comme ça, difficile, et il n'accepte pas la nasiha, et naam, on n'a plus d'autre solution que quoi? Que de lui sourire, etc. Mais comme a dit le messager d'Allah, demain, naam, il aura la pire position devant Allah Azza wa Jal. Naam, il aura la pire position devant Allah Azza wa Jal. On rapporte aussi que Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, il nous arrivait de sourire aimablement à certains gens alors que nos cœurs les maudissaient. Rapporté par Bukhari. Subhanallah, vous avez entendu ça? Abu Darda, le grand compagnon, qu'a-t-il dit? Il nous arrive de sourire aimablement à certains gens alors que nos cœurs les maudissent. Dans mon cœur, je le maudis. Mais je lui souris comme ça. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une personne qui a un très mauvais caractère et qui peut beaucoup me faire du tort et me faire beaucoup de mal. Non, beaucoup de mal. Subhanallah al-Azim. Moi, je vois ici de temps en temps, Allah al-Afiyah, qu'Allah Ta'ala nous en préserve, je vois ici de temps en temps des choses très 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 graves dans l'internet. Très 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 graves. Dans des salons, dans des salons comme ça, je trouve qu'il y a des salons ici, vous connaissez ces salons, c'est pas la peine de les citer, où les frères et les sœurs rentrent seulement pour plaisanter et rire et dire des bêtises et des sottises. Et des fois, subhanallah, je ne sais pas, ça marche pas. Il dit à une sœur une chose, elle lui dit une chose, ça marche pas, ouais. Hop, il va ouvrir un salon en appelant la sœur. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, Om Fatiha. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas ce pseudo dans le salon. Om Fatiha, la perverse. Fatiha, la zaniya. Je l'ai lu ça de mes yeux. Qui fait la zina. Subhanallah. Pourquoi? Parce que elle lui a dit un mot, elle lui a dit un mot, ça n'a pas marché, je sais pas quoi. Il dit direct, c'est la zaniya, c'est ceci, cela. Il ouvre un salon. Un salon spécialement avec son nom. Iksagda, la zaniya. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est vraiment des choses très graves qui se passent ici sur le paddock. Des choses très très graves. Mais ceux-là, aujourd'hui, ils ne veulent pas comprendre. Mais demain, quand ils vont rencontrer Allah Ta'ala, ils comprendront. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum 'adhabun alimun fi ad-dunya wal-akhirah. Allah Ta'ala dit, ceux qui aiment que la turpitude se propage entre les musulmans, ceux-là, ils auront un châtiment douloureux, il a dit, dans cette dunya et dans l'au-delà. Allah Ta'ala, quand il dit, dans cette dunya et dans l'au-delà, là, on sait que c'est l'enfer et ça. Dans cette dunya, ça veut dire que c'est quoi? C'est les maladies graves et c'est les choses yani, les plus affreuses qui vont lui arriver. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Ainsi, l'islam recommande aux croyants comme aux croyantes la gentillesse, l'amabilité, la courtoisie et la bienveillance envers les gens. Car ce sont des qualités qui contribuent de manière décisive à la consolidation des liens humains. Consolider les liens, mashallah. La musulmane ne doit donc pas se comporter avec les autres femmes en fonction de l'appréciation ou de l'aversion qu'elle ressent vis-à-vis d'elle. Mais, par contre, elle doit agir en fonction des principes objectifs de la justice et de l'islam. Qu'elle n'apprécie pas, elle doit faire appel à la raison, à la moralité et aux principes religieux, que ce soit dans ses jugements ou dans ses témoignages. En adoptant cette attitude, la musulmane, la pieuse, la salafia, elle suit l'exemple des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, dont la piété les empêchait d'être injustes dans leurs témoignages les unes sur les autres. Notre mère, Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui était l'épouse préférée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et sa seule rivale. C'est qui la rivale de Aïcha radiallahu ta'ala anha? Il y avait elle et il y avait 8 autres épouses. Enfin, il y avait 13, et quand le messager d'Allah est mort, il en a laissé 9. C'est qui la grande rivale de Aïcha radiallahu ta'ala anha? Al-Ghuraba, est-ce que tu peux me dire, toi ou bien Ta'amallah, c'est qui la rivale? Parmi les épouses du prophète, il y avait une qui était vraiment la rivale de Taïb. Je vais vous la dire, Inch'Allah Ta'ala. Al-Ghuraba, tu la connais? Khadija radiallahu ta'ala anha. Taïb, je vais te répondre, Inch'Allah Ta'ala, je parlais des vivantes. Je parlais de celles qui étaient vivantes. Je répète, ainsi, Aïcha radiallahu ta'ala anha était l'épouse préférée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa seule rivale était Zaynab bint Jahsh. Qu'Allah azza wa jalla agré. Une certaine jalousie, somme toute normale, existait donc entre elles. Ce qui est par ailleurs tout à fait normal entre les co-épouses, bien sûr. Les co-épouses. Cependant, cette jalousie n'empêcha pas l'une de faire équitablement témoignage au sujet de l'autre, sans même négliger aucune de ses qualités. Dans son Sahih, Muslim rahimahullah rapporte que Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit à propos de Zaynab, sa rivale, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'était la seule parmi les épouses du messager d'Allah qui était à pied d'égalité avec moi auprès de lui, auprès du messager d'Allah. Donc Aïcha reconnaît, elle dit, Zaynab c'était la seule qui était à pied d'égalité avec moi auprès de lui. Elle a dit, je n'ai jamais vu une femme aussi dévouée à la religion que Zaynab. Allahu Akbar. Je n'ai jamais eu de femme et attachée au lien de parenté que Zaynab. Allahu Akbar. Je n'ai jamais vu de femme faisant plus d'aumône qu'elle, ni manifestant une abnégation supérieure à la sienne concernant les exécutés pour faire aumône de leurs revenus en vue de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Elle a dit, son seul défaut était son irascibilité, c'est-à-dire elle devenait vite en colère, mais elle se remettait rapidement de sa colère. Allahu Akbar. Vous voyez comment deux coépouses, et toutes les coépouses sont jalouses entre elles, toutes les coépouses sont jalouses entre elles, la deuxième dit, si vraiment je valais pour mon mari, il ne m'aurait pas changé. Pardon, c'est la première qui dit comme ça. Elle dit, si vraiment j'avais de l'importance aux yeux de mon mari, il ne m'aurait pas changé avec la deuxième. Naam. Et lui, quand il va à la première, il lui dit, c'est toi, naam, la meilleure. La deuxième, elle dit, c'est seulement pour ceci et cela, pour l'arabe, pour ceci, pour cela, il va trouver des excuses. Naam. Al-Muhim. Donc, regardez comment elle l'a vanté, naam, comment qu'elle a rempli des loges, et pourtant elle n'était pas présente, hein. N'est pas présente, elle était morte quand elle a dit cela. Naam, radiallahu ta'ala. Et quand elle a parlé d'elle, en citant un défaut, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, son seul défaut, c'est la grande colère. Ensuite, radiallahu ta'ala, elle a vite corrigé. Elle a dit, mais elle se remettait rapidement de sa colère. Vous voyez comment elle a vite corrigé? Elle a dit, mais elle se remettait rapidement de sa colère. Dans le long récit, où Aïcha, radiallahu ta'ala, relate l'histoire de la calomnie qui avait visé sa personne et dont Allah Ta'ala l'avait innocenté, entre parenthèses, même si ce que je dis ne plaît pas au khoubata des chiites, des rawafid, qui disent que, malgré que le Coran est clair et explicite, ils disent que Aïcha a fait la zina, que Allah Ta'ala les maudisse d'aujourd'hui jusqu'au jour où ils le rencontrent. Naam, sauf ceux qui font la tauba. Donc, dans le long récit où Aïcha relate l'histoire de la calomnie qui avait visé sa personne et dont Allah Azza wa Jal l'avait innocenté, walhamdulillah, je dis walhamdulillah, alors elle n'oublie pas de rendre hommage à Zaynab qui avait pris une position honorable vis-à-vis d'elle. Elle dit, Aïcha dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interrogé Zaynab bint Jahsh à mon sujet, en lui disant, ô Zaynab, que sais-tu? Qu'as-tu vu? Imaginez bien avec moi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est très peiné. On vient de dire de sa meilleure épouse qu'elle avait fait le haram. Le messager d'Allah voudrait la vie de certaines épouses. Il va demander à une autre épouse qui est la rivale de Aïcha. Écoutez donc, c'est quoi d'eux? C'est le moment opportun pour une rivale, pour une femme qui est jalouse, donc de quoi? De profiter pour amochir la personnalité de la rivale. C'est une occasion en or qu'il ne faut pas perdre, n'est-ce pas? Naam, une femme qui est co-épouse, qui est très jalouse, son mari vient lui dire, que penses-tu de ma première femme? On m'a dit qu'elle a fait la zina. C'est une occasion en or, zina, il faut dire elle a fait. Naam, j'ai entendu les voisins tout à l'heure. Je crois que même on a dit ça à la télévision. Naam, tout le monde parle de ça. Tu peux lire les journaux, c'est écrit partout. Tout le monde dit qu'elle a fait la zina. Naam. Mais écoutez, Zaynab bint Jahsh, que va dire Allahu Akbar? Elle est en tête à tête avec le messager d'Allah et tout ce qu'elle va dire, il va l'accepter. D'ailleurs, il l'a choisi pour témoigner. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, ô messager d'Allah, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je préserve mon oui, c'est-à-dire mon oreille, je préserve mon oui et mon regard. Ahfadu sam'i wa basari. Ya Rasulullah, je préserve mon oui je n'ai rien entendu et je préserve mon regard, je n'ai rien vu. Par Allah, je ne sais d'elle que du bien. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est trop, c'est trop. Par Allah, je ne sais d'elle que du bien. Alors Aïcha dit, c'était la seule parmi les épouses du prophète qui m'égalait auprès de lui. Cependant, Allah préserve. Allahu Akbar. Regardez. Une grande rivale, la plus grande rivale de Aïcha, pendant les moments les plus opportuns, l'occasion en or de la dénigrer aux yeux du messager d'Allah pour qu'elle soit seule, ensuite elle va rester toute seule, la plus aimée, elle dit, je préserve mes yeux et mes oreilles au messager d'Allah, je n'ai rien vu de mal sur elle ni entendu. Bien au contraire, je ne connais d'elle que du bien. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, la piété. Ce que fait la piété. Ce que fait la piété. Regardez ce que fait la piété. Zainab radiallahu ta'ala anha, naam, pourrait, aurait pu, si elle avait voulu, naam, du moins, ne rien dire. Il lui dit, qu'est-ce que tu sais d'elle? Elle ne se suffit pas au fait de se taire. Mais elle dit, je ne connais d'elle que du bien. C'est-à-dire, elle lui fait les éloges. Je ne connais d'elle que du bien, Rasulullah. Je ne connais d'elle que du bien. Subhanallah al-Azim. Salama radiallahu ta'ala anhu a dit au sujet de Zaynab, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Zaynab plaisait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il l'a fréquenté souvent. Elle a dit, elle était pieuse et observait assidûment la prière nocturne. Zaynab, c'était le genre qui quoi? Ne passait pas la nuit avec la télévision. Mais elle passait la nuit avec quoi? Avec la prière nocturne. Et le jeûne surérogatoire. Allahu Akbar. Ce n'est pas elle qui a dit, hein? Ce n'est pas Zaynab qui dit ça. On va dire peut-être qu'elle veut se montrer, astaghfirullah. Ce sont des gens qui parlent d'elle, des témoignages. Salama qui dit cela, une autre épouse du messager d'Allah, qui dit, Zaynab plaisait au messager d'Allah, et il l'a fréquenté souvent. Elle était pieuse, et observait assidûment la prière nocturne, et le jeûne surérogatoire. Elle a dit, c'était également une femme habile de ses mains et elle offrait le fruit de son travail aux pauvres. Regardez, elle amasse de l'argent avec ce qu'elle fait de ses mains, du pain, etc. Elle vend et elle donne son argent aux pauvres. Allahu Akbar. Masha'Allah, la quwwata illa billah. On a aussi fait dire à Aïcha radiallahu ta'ala anha à propos des témoignages équitables des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les unes au sujet des autres, on rapporte que lorsqu'on annonça la nouvelle de la mort à Zaynab, la mort de Zaynab à Aïcha, écoutez maintenant, lorsqu'on annonça à Aïcha, radiallahu ta'ala anha, la mort de Zaynab, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez ce qu'elle a dit à Aïcha, notre mère. Elle a dit, elle nous a quittés dignes d'éloge. Elle nous a quittés en étant dignes d'éloge. Elle s'était adonnée à la dévotion. Et elle était le refuge des orphelins et des veuves. Subhanallah al-Azim. Voir, naam, l'Isti'ab. L'Isti'ab. Volume 4, page 1851. De Ibn Hajj al-Asqalani. Vous avez entendu ce qu'a dit Aïcha d'elle, radiallahu ta'ala anha, naam. Elle nous a quittés en étant dignes d'éloge. À la dévotion, et c'était le refuge des orphelins et des veuves. Tous les orphelins et les veuves, venez la voir matin et soir. C'était elle le refuge. On rapporte aussi, a dit à propos de Maymouna, une autre épouse du messager d'Allah, elle a dit, par Allah, Maymouna nous a quittés. Par Allah, de toutes choses, elle était la plus pieuse et celle qui maintenait le plus les liens de parenté. Hadith sahih. Naam. Donc vous voyez ce qu'a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha de Zaynab. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, naam, quand Zaynab était vivante, et qu'il, vous savez, je vous ai dit une fois que les co-épouses du messager d'Allah se retrouvaient chaque soir dans la maison où il allait dormir. C'est par exemple aujourd'hui, c'est la nuit de Aïcha, chaque soir elle se trouve, pardon, je dis chaque soir, ce soir-là elle se trouve chez Aïcha, le soir. Elle parle, elle discute, ensuite quand c'est le moment d'aller se coucher, chacune va dans sa maison. des maisons collées l'une à l'autre, bien sûr. Et ainsi elles vont. Si c'est demain, la nuit de Zeynep, elles vont chez Zeynep. Elles discutent là-bas. Même le soir, elles vont dormir dans leur chambre. Et lui, il rentre par exemple avec Zeynep dans sa chambre, radhiyallahu ta'ala anha. Al-Muhim. Une fois le messager d'Allah leur a dit, celle qui me joindra, si je puis dire, celle qui, yani, me, comment quand je vais dire le mot là, c'est pas me suivra. Disons, celle qui me joindra la première, c'est-à-dire qui mourra, naam, la première qui mourra de vous, si je puis dire, il a dit, celle qui a le bras le plus long. Celle qui me rejoindra la première entre vous les neuf, c'est celle qui a le bras le plus long. Alors, dans une version, il est dit que chaque soir, elle se mettait comme ça debout. Pas chaque soir, de temps en temps, elle se mettait comme ça debout contre le mur en donnant leur dos au mur. Et ensuite, on calculait avec quoi? Avec, comment ça s'appelle ça? Qasba. Comment on dit Qasba? Avec un petit bâton comme ça, on calculait qui de ces femmes avait le bras le plus long pour essayer de savoir quelle est celle qui va mourir la première. Et un bambou, un morceau de bambou comme ça. Et c'est Zaynab bintou Jahsh radiallahu ta'ala anha qui est morte la première. C'est Zaynab bintou Jahsh radiallahu ta'ala anha qui est morte la première. Et ce qui est étonnant, c'est que Zaynab bintou Jahsh était petite de taille, si ce n'est pas la plus petite des neuf autres, des très très petites de taille. Et vous savez, ses bras ne sont pas longs. Ses bras ne sont pas longs. Donc, comme le hadith a dit, le message d'Allah a dit, celle qui me suivra la première sera celle qui aura le bras le plus long. Et bien sûr, en méditant un peu et en réfléchissant un peu, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas mentir dans ces choses ni se tromper, car c'est Jibril qui lui a dit que c'est elle qui va mourir la première. Donc, elles ont compris quoi? Elles ont compris que le messager d'Allah a fait une métaphore. A fait une métaphore. Il a donné une métaphore. C'est-à-dire ici, avoir le bras long, c'est donner beaucoup d'argent aux pauvres. Voilà, on dit que X a le bras long, ça veut dire qu'il donne beaucoup d'argent aux pauvres. Et en effet, Zaynab, c'était celle qui donnait le plus. D'ailleurs, vous avez remarqué, Aïcha a dit quoi? Elle a dit que c'était le refuge des pauvres et des orphelins et des veuves. Donc c'était elle qui donnait le plus d'argent. Et aussi, Umm Salama, je crois, elle a dit que le fruit de ce qu'elle faisait avec ses mains, elle le donnait aux pauvres. Donc c'est pour ça que le messager d'Allah l'a qualifié de bras long. Subhanallah al-Azim, le bras long. Donc pour terminer, ces témoignages ne sont qu'un échantillon d'une multitude de propos cités dans les ouvrages biographiques consacrés aux compagnons et qui reflètent tous l'équité et la justice qui distinguaient les mères des croyants, même quand il s'agissait de leur coépouse. Tel est le comportement de chacune des mères des croyants vis-à-vis de sa coépouse, en dépit de la jalousie et la rivalité qui étaient censées exister entre elles. On peut donc, à partir de là, imaginer leur comportement noble avec les autres femmes. Par leur conduite, elles ont établi pour toutes les musulmanes un modèle élevé de la jalousie. Ce modèle-là doit inspirer toute musulmane, car c'est en s'y conformant qu'elle parviendra à adopter une attitude juste et aimable envers les femmes qu'elle trouve déplaisantes. Aussi, grâce à ce modèle, réussira-t-elle à atteindre l'impartialité dans ces femmes, fussent-elles des proches, parentes ou des amis. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne, inshallah ta'ala, rendez-vous pour les questions-réponses dans 10 minutes. Bi'idna azzawajal. Ta'am Allah ou bien l'autre, naam, mettez, inshallah ta'ala, le Coran ou quelque chose. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم الله جميعا وحافظكم الله عز وجل. أزبو مونتوندي الحمد لله. طيب أتوندي جبي بوار كي أون دو لا ليست. نعم أم عبد الله. أم عبد الله نعم أم عبد الله حياك الله حياك الله وتفضلي إن شاء الله تعالى تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شيخ. Vous avez du son? Je peux poser la question? طيب.
Est-ce que vous m'entendez? En fait, il y a un malentendu ici. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, pour qu'il n'y ait pas de... Naam. De frapper des cœurs et de faire des cœurs. طيب. Donc moi, dans ma liste, il y avait Oum Abdillah. C'est pour ça que j'ai dit Oum Abdillah Tafadali. Ensuite, Al-Ghuraba a dit... C'est qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est Abu Ahmed. Ensuite moi, quand il a dit Abu Ahmed, il m'a rappelé une chose. Il m'a rappelé que Ghuraba m'a parlé la journée. Il m'a dit que Abu Ahmed voulait dire quelque chose en ce qui concerne une sœur. Alors j'ai écrit ici, j'ai dit que je devais entendre la sœur. Ici la sœur ce n'est pas Oum Abdillah. Si la sœur c'est l'autre. Ensuite, Abu Ahmed a dit, j'ai une question à poser. Alors j'ai dit, il ne va pas parler du problème, il va parler de la sœur. Pardon, il va parler de la question, pas du problème. Alors si c'est une question, tafadlal, si tu es le premier de la liste, je ne sais pas. Moi, dans ma liste, c'est Oum Abdillah. Naam, chez vous, je ne sais pas où est Abu Ahmed exactement. Tafadlal maintenant, si tu as pris le micro, tafadlal.
Assalamu alaikum. En fait, cher, je ne sais pas en fait, parce qu'en fait, la sœur, elle a contacté mes proches. Et elle a demandé si on pouvait poser la question au micro. Biznillah. Mais si vous préférez directement la voir tout de suite après le darf, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. C'est, vous me dites, il n'y a pas de problème. C'est par rapport à une question, par rapport à une situation de harcèlement qu'elle subit, qu'on lui fait subir actuellement, en fait. C'est une personne qui la harcèle et elle voudrait... C'est ça la question précisément. Mais si vous préférez directement parler avec la personne, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Est-ce qu'elle est là? Je pense qu'elle est là. Wallahu a'lam. Ouais, elle est dans le salon certainement, ouais. Naam, elle est dans le salon, ouais. Naam, Shir, elle est là. Elle est dans le salon, ouais. Je suis désolé de vous faire perdre votre temps. Taïb, je pose la question. Taïb. Alors en fait, c'est le cas d'une sœur qui connaît mes proches, que mes proches connaissent. Et c'est une sœur qui est divorcée, et son père est décédé, et ses frères ne sont pas dans la religion. Donc en fait, il n'y a personne du côté masculin pour la représenter, ou pour prendre sa défense. Et un frère l'a demandé en mariage il y a 9 mois environ, et la sœur elle a refusé, car le frère ne lui convenait pas par rapport à certains points. Et depuis qu'elle a refusé cette personne, il ne cesse d'appeler chez elle, à savoir qu'il s'est procuré le numéro de téléphone de la sœur, et il ne cesse d'appeler chez elle. Depuis 9 mois ça dure. Donc au début, il laissait un message par jour où il disait, par exemple, tu dois absolument te marier avec moi, etc. Tu dois te marier avec moi, il faut que tu te maries avec moi, etc. Mais depuis quelques temps, depuis plusieurs semaines, ça a franchi un palier. À savoir que maintenant, il appelle et il ne parle pas. Ou alors, il va souffler, il va respirer fort derrière son combiné sans parler. Et la sœur, donc, elle ne répond pas, mais il laisse des messages. Et il laisse des messages menaçants dans lesquels il dit... par exemple, il a dit dernièrement, je sais où t'habites, je sais où réside ta mère, etc., etc. Elle change de numéro, mais il arrive toujours à se procurer les numéros. On ne sait pas, elle ne sait pas comment. Il arrive toujours à se procurer les numéros. Et il est parti voir les gens de la mosquée dans le quartier. Il est parti voir les gens de la mosquée où elle habite. Il a raconté des gros mensonges. Il a dit par exemple qu'il avait, a'oudoubillah, il a dit qu'il a commis l'acte charnel avec elle et qu'il a contacté les gens de science d'Arabie et que les gens de science lui auraient dit tu dois te marier avec elle. Donc bien évidemment c'est du mensonge, mais il raconte ce genre de choses pour discréditer la sœur, pour l'isoler, pour que personne ne puisse lui venir en aide et pour que personne ne la prenne au sérieux quand elle se plaint de lui. Et maintenant il sait qu'elle vient sur internet, sur Paltalk, donc il vient même sur Paltalk. Et il prend des pseudos du genre « je vais pas te lâcher, etc. Il connaît pas son pseudo sur Paltalk, mais il sait qu'elle vient sur Paltalk, donc il prend des pseudos de ce genre-là. Donc maintenant, il a franchi un palier où il a franchi un palier, il appelle 50 fois ou 60 fois par jour, il laisse des messages sur le répondeur, etc. Et il arrive toujours à se procurer le numéro de la sœur. Elle a changé de numéro de téléphone 3 ou 4 fois. Il arrive toujours à se procurer le numéro. Donc maintenant, la question que la sœur demande, c'est est-ce qu'elle a le droit d'aller voir les autorités pour porter plainte? Parce que maintenant, par rapport au harcèlement qu'elle subit, elle demande est-ce qu'elle a le droit d'aller porter plainte parce qu'elle a peur qu'il s'en prenne à elle maintenant, vu qu'il se fait menaçant. Est-ce qu'elle a le droit d'aller voir les autorités pour porter plainte tout simplement parce que c'est du harcèlement moral ce qu'il fait. Et il y a des frères qui sont partis le voir, ce personnage, et il leur ment. Il dit non, c'est pas vrai, je fais pas cela, etc. Et tout de suite après, il rappelle la sœur et il lui dit du genre, si tu me renvoies des personnes, tu vas voir, etc., etc. Barakallahu fikoum, cheikh. Je suis désolé d'avoir monopolisé le micro et de vous embêter avec une question, mais c'est très important. Jazakumullahu khayran, barakallahu fikoum.
Premièrement, d'abord avant cela, si vous m'entendez. Premièrement, ce qui est désolant et très désolant, c'est que peut-être que cette personne se dit je suis salafi. Non, peut-être que cette personne se dit moi je suis salafi, mashallah, il est salaf, et etc. etc. Al-Muhim. Je réponds très vite à cette sœur, non, qui lui est permis de contacter les autorités. Je dis à cette sœur, il est permis que tu ailles au commissariat avec ton portable, et tu dis voici les numéros, voilà son numéro, voilà la personne qui m'appelle, et voilà ce qu'elle me dit, voilà les messages qu'elle m'écrit, etc., pour que eux ils le contactent. Naam. Tu fais cette chose en ton cœur en détestant le fait d'aller chez les kuffars pour te plaindre. Naam. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Sofwan ibn Umayya de lui prêter son bouclier dans la bataille, le combat de Badr. Il a demandé ça aussi dans le combat, la bataille de Hunayn. Deux fois, il a demandé son bouclier des kofars. Naam. Le kafir, quand on est dans l'obligation de lui demander de l'aide, ce n'est pas interdit. Naam. Donc, si cette personne est dans le salon et elle m'entend, je lui dis Taqillah subhanahu wa ta'ala. Taqillah subhanahu wa ta'ala. Taqillah subhanahu wa ta'ala. Déjà, le fait qu'une personne ne m'accepte pas pour le mariage, ça me suffit. Naam, ça me suffit. Comment je vais me marier avec une personne qui ne m'aime pas et qui me déteste et qui ne veut pas de moi? Tu dois avoir quand même, yani, un peu de, comment on dit ça, un peu, c'est pas d'orgueil. C'est pas, je trouve pas une personne qui ne veut pas de moi. Comment, yani, vais-je vivre avec elle toute ma vie? Avec laquelle on trouve des affinités. On trouve un certain penchant. Je ne vais pas me marier avec une personne que j'aime pas et que je déteste. Subhanallah l'azim. Donc je dis à cette personne, Taqillah subhanahu wa ta'ala, et naam, fais des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne une personne naam, qui accepte de toi et qui soit mieux peut-être que celle-là qui ne veut pas. Et pourquoi pas? Allah ta'ala peut te donner une personne mieux que cette sœur. Naam, mais reviens à Allah ta'ala. Et demande-lui le pardon, et demande à cette personne aussi le pardon. Quand je te dis demande à cette personne le pardon, naam, si tu veux, mais allez, ça c'est terminé entre vous. Naam. Sinon, naam, elle sera obligée d'être toi, et tu seras dans les problèmes. Tu ne finiras pas des problèmes jusqu'à tu meurs pour avoir lésé, quoi, un mu'min. Naam. Tafadhal, inshallah ta'ala, le suivant.
Bismillah, salam alaykoum. Donc la question de la sœur Oum Abaydallah, c'est Salam alaykoum, Cheikh. Une sœur demande, je connais une sœur qui fait une chose haram. Elle parle avec un frère qui lui est étranger. Je l'ai déjà conseillé deux fois avec gentillesse. Je pensais qu'elle avait accepté mon conseil et qu'elle arrêtait ce péché. Mais à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, j'ai appris qu'elle fait toujours ce péché. J'ai essayé de lui en reparler avec un peu plus de fermeté, mais elle m'a dit que cela ne sert à rien, que je lui répète les choses à chaque fois. Comment dois-je me comporter avec elle? Puis-je enregistrer la question pour la sœur? Barakallahu fik. C'est la sœur qui lui a répondu. Donc la sœur qui pose la question, elle lui a fait la nasiha, deux fois, et ensuite, quand elle a appris qu'elle continuait, l'autre, elle lui a dit, ça sert à rien de me le répéter à chaque fois, j'ai compris, je continue, c'est tout. Donc, comment doit-elle se comporter envers elle? Waqallahu fik cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barak. Vous m'entendez? Naam, alhamdoulillah. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que quand on fait la nasiha pour une personne, on la fait pour Allah. Quand on fait la nasiha pour une personne, on la fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, de par ma nasiha, je veux quoi? Je veux les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand je fais une nasiha à une personne, soit qu'elle l'applique ou elle n'applique pas, dans tous les cas, j'ai quoi? J'ai les récompenses si j'ai été sincère avec Allah azzawajal. Reste maintenant une autre chose, reste mon comportement envers celle-ci. Reste mon comportement envers celle-ci. Naam. Les savants disent, si on sait que, en s'éloignant de cette personne, en ne plus lui parlant, elle va se corriger, se redresser et revenir vers le haqq, on le fait. Mais si, en la quittant et en ne plus lui parlant, car on est énervé contre elle, naam, on sait que ça ne va donner aucun résultat, il vaut mieux ne pas le faire, comme dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Naam. Si maintenant une personne, pourquoi on veut s'éloigner d'elle? Pour que yani, elle médite et elle revienne. Mais si elle ne revient pas, à quoi ça sert de ne plus lui parler? J'ai perdu une amie. J'ai perdu une amie. Quelle est la limite? Je n'ai pas compris la question. Quelle est la limite de temps dans le fait de ne plus parler? De ne plus parler avec une personne? Oum Abdillah, est-ce que tu veux dire, si je ne parle pas avec une personne, quel est le maximum de temps que je peux pour ne pas lui parler? Est-ce que tu veux dire ça? Naam. Non, on peut ne plus lui parler jusqu'à ce qu'elle revienne. Naam. On peut ne plus lui parler jusqu'à ce qu'elle quitte le péché. Naam. Quand une personne fait un péché, surtout si c'est un grand péché, l'alcool, la zina, etc., on peut ne plus lui parler jusqu'à ce que la personne revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme j'ai dit, si maintenant on sait que en ne pas parlant à la personne, que ça ne va pas donner de résultat, et que ça peut même la rendre plus en fuite, elle va fuir encore plus et rentrer dans les péchés encore plus. Dans ce cas, les savants disent, il vaut mieux yani, ne pas lui parler. Il vaut mieux ne pas lui parler pour ne pas la perdre. Wallahu ta'ala a'lam. Atfadl inshallah le suivant.
Salam alaykoum, Cheikh. Une sœur n'arrive plus à faire sa salate, elle manque de motivation, elle n'a aucune émotion lorsqu'elle lit le Coran. De plus, elle ne trouve pas le sommeil que si elle dort sur le ventre. Doit-elle faire ruqya? Que lui conseillez-vous?
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Le fait qu'une personne ne trouve pas beaucoup de motivation dans la salat, ni beaucoup d'émotion à lire le Coran, ça arrive à tout le monde et ça peut nous arriver à nous tous. Il y a des moments où nos cœurs, yani, vont vers l'avant, aller marche arrière. Et des fois, nos cœurs vont vers l'avant. Quand on sent que notre cœur va vers l'avant, on a du dynamisme, etc., on profite. On profite à lire le Coran, à faire la prière de la nuit, à jeûner, à faire ceci. Non, quand on sent que c'est bloqué ou bien qu'il veut revenir en arrière, qu'est-ce qu'on fait? On essaie au maximum de s'agripper jusqu'à ce que le nuage passe. C'est seulement un nuage pour le croyant, pour le vrai. C'est un nuage d'une semaine, d'un mois, de 3 mois, et ça passe. Ensuite, on revient à quoi? On revient à l'habitude. D'ailleurs, c'est le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jama, où le messager d'Allah a dit que chaque croyant a un moment de force, et après ce moment de force, il a un moment de faiblesse. Il a dit, mais celui qui, dans le moment de faiblesse, s'accroche comme ça à la sunna, etc., en ce sens, yani, que il va trouver le bien. Mais celui qui, dans les moments de faiblesse, yani, il va se délaisser, etc., celui-là, bien sûr, il va perdre. Donc, je résume, nous tous, il y a comme ça, comme des averses qui tombent sur nous, où on se sent faible, on se sent déprimé, mais on tient toujours en Allah Azzawajal, et on fait toujours des doigts, etc., pour sortir du tunnel. C'est un tunnel. Nous tous, on rentre dans un tunnel de temps en temps. Mais on fait des doigts, etc., pour sortir du tunnel. Et non pas, je me dis, là, je suis dans le tunnel, là, je vais rester dans le tunnel. Non, j'essaie de sortir. Et je sortirai bi-idhna azzawajal si je suis sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'elle a dit ici, troisièmement, je ne trouve de sommeil que si je dors sur mon ventre. Sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette façon de dormir est celle des gens de l'enfer. Hadith authentique. Celui qui dort sur son ventre, il s'est fait ressembler aux gens de l'enfer. Car les gens, quand ils seront en enfer, ils seront couchés sur le ventre et non pas sur le dos ni sur le flanc. Donc, cette sœur doit s'habituer pour ne pas dormir sur le ventre. Mais elle fait les wudu, elle fait les ablutions avant de dormir. Ensuite, elle dort sur le flanc droit. Elle dit Bismillah, Bismika amutu wa ahya. Ou bien elle dit Bismika wada'tu janbi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Elle lit قول يا أيها الكافرون أو بيان قول هو الله أو بيان معوذات أو بيان إذا زلزلت أو بيان سورة الملك نعم إي بإذن الله عز وجل الله تعالى va lui faire descendre le sommeil نعم et la sérénité sur son cœur et elle va dormir et elle ne doit pas suivre ses passions elle dit moi je peux pas il faut que je dorme comme ça on lui dit non le hadith a dit on ne dort pas comme ça dors sur le flanc droit Allah تعالى te fera dormir ensuite si tu oublies et tu te mets sur le flanc ou là, sur le ventre. Là, tu es excusé parce que tu as oublié maintenant. Tu ne te commandes plus. Tu as perdu, si je puis dire, la raison. Naam. Mais avant de dormir, il faut choisir la bonne position. Enfin, pour terminer, ce n'est pas toujours la ruqya qui est la solution. Ce n'est pas toujours la ruqya qui est la solution. La ruqya, naam, il faut l'essayer, ma'lish, pour être sûr qu'on n'a rien. Mais ce n'est pas toujours la ruqya. Mais c'est en méditant, en s'asseyant comme ça, en réfléchissant, en se disant quelles sont mes fautes, quels sont mes défauts, je ne dois pas faire ceci, je ne dois plus faire cette chose, et comme ça on se corrige. Mais ça ne fait rien. Si elle veut, inshallah ta'ala, elle voit avec la ruqya, si ça ne donne rien à la ruqya, elle fait quoi? Elle doit dresser comme ça un tableau et dire voilà mes fautes, voilà mes fautes, voilà ce que je fais, donc je dois me corriger en telle chose, et elle fait des doigts pour que Allah ta'ala l'aide. C'est Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim. أن يعينها وأن يقوي إيمانها وأن يحبب إليها الإيمان وأن يكره إليها الكفر والفسوق والعصيان وأن يشفيها من مرضها هذا تفضل السويبون
بسم الله C'est la question de Oum Ferdows Première demande السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ Vous avez donné dans un de vos cours les conditions pour qu'une fille soit puberte en donnant comme règle qu'à partir de l'âge de 15 ans si la fille n'a pas ses règles Elle est considérée comme pubère. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'une fille qui a 11 ans et qui a des poils sur le pubis, mais qui n'a pas ses règles, peut être considérée comme pubère? Barakallahu fekoum cheikh. Qu'Allah vous garde et vous préserve. Amin.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fais saut. Naam, ceux qui ont suivi les cours savent que naam, la femme devient pubère avec l'un des quatre signes. Les poils dans l'endroit où il a cité, ou bien sous les aisselles, naam, ou bien les menstrues, ou bien le rêve érotique, ou bien elle a 15 ans. L'un de ces quatre signes prouve que la fille est devenue pubère. En parenthèse, c'est pas moi qui vous corrige, inshallah ta'ala, mais vous savez qu'on pour une femme, on dit pubère, et on ne dit pas puberte. Al-Muhim. Maintenant, si elle a les poils dans l'endroit qu'on vient de dire la personne, il faut pas que ça soit le début. Il faut pas que ça soit le début des poils, mais des poils yani, assez gros comme chez la femme normale. Dans ce cas, elle est devenue pubère. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadl.
Minhaj ul haq. Votre question, barakallahu fiki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya Sheikh, dans un de vos dourous sur la salat, j'ai cru comprendre qu'il est interdit à une femme qui met le sitar de prier le visage couvert. Alors ma question est la suivante, Cheikh. Qu'en est-il pour la ourte qui est en voyage et doit prier dehors sachant qu'il peut y avoir des hommes qui peuvent la voir? Barakallahu fikoum, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Je profite pour dire que de ce livre, mashallah, on a tiré beaucoup, beaucoup d'intérêt, et que je ne crois pas qu'il y ait un livre sur la salat comme naam, ce livre, c'est-à-dire la salat du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est pour ça que je profite de l'occasion encore une fois, naam, pour faire des doigts à la personne qui me l'a envoyé, en lui disant que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et te préserve et remplisse ton cœur de bonheur et de sérénité. Naam. Je disais, naam, la femme ne peut pas prier avec le visage couvert, sauf dans un cas pareil où il y a des hommes. Donc elle a mis ici le sitar. Pourquoi? Ce n'est pas pour se cacher le visage devant Allah. Car c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'homme, elle n'aurait pas couvert son visage. Donc elle est excusée en ce sens. Comme ça disent les savants. Naam. Sinon, si elle était seule ou avec les maharim, elle n'aurait pas caché son visage. Atfadla, inshallah, le prochain.
Salam alaykoum, Cheikh. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde le jour du jugement, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs en islam. Amin. Voici ma question. Une femme qui avait du diabète pendant sa grossesse n'a pas jeûné le mois de Ramadan. Doit-elle rattraper ce jeûne ou bien sortir kafara? Doit-on rattraper les jours de jeûne manqués avant le prochain mois de Ramadan? Barakallahu fik, Cheikh. Mouahidine, envoyez-moi votre question. Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Abou Bakr 1429. Jazakallah khairan pour cette doua. Amin. À moi et à toi, tout le monde, inshallah. En ce qui concerne la femme qui ne peut pas, naam, qui est en grossesse, la femme qui est en grossesse et qui ne peut pas jeûner, naam, à cause de sa grossesse, car elle a peur. Elle a peur pour elle-même ou bien pour son bébé. Car par exemple, elle a le diabète ou là, elle est malade ou là, elle a un empêchement. Non. Mais elle est en grossesse et elle ne peut pas quoi? Elle ne peut pas jeûner car elle a peur pour elle-même ou bien elle a peur pour son bébé. Non. Dans ce cas, non, si elle mange, elle ne rattrape pas. Mais elle doit faire une expiation, c'est-à-dire faire manger un pauvre pour chaque jour qu'elle a mangé. Elle doit faire manger un pauvre pour chaque jour qu'elle a mangé. Je dis bien à condition qu'en étant en grossesse ou bien en allaitant, elle a peur pour elle ou bien pour son bébé, ou bien pour les deux. Mais si elle sait qu'elle est bien, elle se porte bien tout en étant en grossesse et qu'elle n'a peur ni pour elle ni pour le bébé, celle-là, bien sûr, elle n'a pas le droit de manger. Non. Mais ici, dans ce cas, donc, elle fait quoi? Elle fait nourrir un pauvre pour chaque jour prochain, Ramadan, Inch'Allah ta'ala.
Salam alaikum, Cheikh. À propos de la question de Minhaj ul Haq, sur la femme qui porte le sitar et qui fait la prière et qui enlève le visage, il y a beaucoup de personnes qui demandent est-ce que vous pouvez répéter la réponse parce qu'ils n'ont pas compris. Et même la sœur aussi, Minhaj ul Haq, elle n'a pas compris le début de votre réponse, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh.
Abou Marouane, tu as dit elle enlève le visage. Ah, et si elle enlève le visage, c'est grave, elle va se scalper. Elle doit avoir un sang et l'hôpital. Moi, je ne parle pas de ça. Naam, jazakallahu khairan. Donc, je répète, la femme n'a pas le droit, écoutez bien les sœurs, la sœur n'a pas le droit de faire la salate avec le visage caché. Naam, sauf s'il y a des hommes qui la voient. S'il y a des étrangers qui la voient, il y a son cousin, il y a le voisin, il y a je ne sais pas qui est en face d'elle en train de la voir. Hein? Comme elle ne permet pas dans la rue qu'il la voie, elle ne va pas lui permettre aussi qu'il la voie dans la salade. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la prière avec le sitar ou bien le niqab caché. Non. Mais si elle était seule, si elle fermait la chambre et il n'y a plus d'homme, alors elle est obligée d'enlever le niqab et de faire la salade avec visage découvert. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai été clair. Donc, j'attends, Inch'Allah Ta'ala, pour que vous me disiez si c'est compris ou là, je répète encore. Tfadlal.
Salam alaykoum, Cheikh, excusez-nous. Si vous pouvez répéter encore une fois, mais avec des autres mots. Une autre phrase, Inch'Allah. La même chose, mais avec des autres mots, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh.
Naam. Écoutez bien, donc, maintenant. Was chong chang, mang chong ching ching chong, a chong ching, a chong chong. San chuan 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 chong. Est-ce que Inch'Allah Ta'ala c'est terminé cette fois? Oui. Je répète Inch'Allah Ta'ala en essayant d'être très clair. Une femme, c'est-à-dire pas un homme, une femme, Naam, si elle a l'habitude de porter, elle n'a pas le droit de faire la salat avec le niqab quand elle est seule. Elle doit l'enlever, Naam, et faire la salat. Mais s'il y a des hommes, il y a des étrangers qui la voient, des étrangers, Naam, avec lesquels elle peut se marier, des étrangers qui la voient, elle peut faire la salat avec le visage caché, avec le niqab. Et dans ce cas, elle n'a pas mis le niqab à cause de la salat, mais à cause des hommes qui sont en train de la voir. Supposons qu'elle fasse la prière dans un jardin et que d'habitude elle met le niqab. Elle va pas se découvrir devant les gens. Elle le laisse et elle fait la salat. Mais si elle est à la maison dans une chambre seule, elle l'enlève. Lorsqu'elle est seule, elle doit l'enlever. Mais si elle est avec un non-mahram, elle peut. Naam, elle peut cacher son visage à cause des hommes. Elle doit cacher. Elle doit cacher son visage à cause des hommes. Si elle est du genre qui dit que la femme doit cacher son visage, bien sûr. Maintenant, si elle est de l'autre cas qui dit on ne cache pas le visage, c'est pas une awra, khlas, il n'y a plus de problème. Naam, il n'y a plus de problème. Est-ce que, inshallah ta'ala, cette fois c'est terminé? Sinon, bi'idnillah ta'ala, je vais parler en allemand cette fois. Aïe. J'attends, inshallah, si vous avez compris. Tching, tchong, tchong, alhamdoulilah. Ah, j'ai compris moi aussi.
Barakallahu fik, Sheikh. Prochaine question, Mouwahidin. Salam alaikum. Quelles sont les conditions pour faire la ruqya aux autres? Faut-il obligatoirement connaître le Coran par cœur en entier? Jazakallahu khairan, Sheikh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour faire la ruqya aux autres, il faut quelques conditions. La première, naam, avoir assez de science pour ne pas rentrer dans le shirk, par exemple. Naam, des fois en parlant avec le shaitan, etc., il risque de te faire tomber dans le shirk. Mais il faut yani, bien connaître la science, comme ça, yani, pour bien lui répondre. Bi'ah, des gens sont allés faire la ruqya à des femmes, naam, et sont tombés dans le haram. Pourquoi? Il n'est pas pieux, donc il n'a pas peur d'Allah Azza wa Jal, donc il la touche. En quoi? En lui lisant. Par exemple, il met sa main sur sa tête, ou bien sa main sur son cœur en train de lui lire, et comme ça. Et les cas où le haram est arrivé, naam, ce sont des cas qu'on ne peut pas compter, tellement ils sont nombreux. Naam. Donc il faut avoir assez de piété pour ne pas tomber dans le haram et rester de loin à lire à la sœur avec un mahram et pas en tête à tête avec elle, bien sûr. Naam. C'est en général yani, les conditions qu'il faut, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, les conditions minimes qu'il faut, bi'idnillah azza wa jal. Tfadla, inshallah, le suivant.
Safiya, préparez vos questions à l'avance, barakallahu fikoum, et envoyez-les moi en privé, inshallah, ceux qui sont dans les 5 premiers, pour qu'on puisse gagner du temps. Barakallahu fikoum, ceux qui sont au début de la liste, envoyez-moi vos questions en privé, inshallah. Safiya, votre question, barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullah, afwan, je n'ai pas de questions. Bah, inshallah, bah, faites dua pour le sheikh, alors, barakallahu fikoum. Amin. Maria, barakallahu fikoum, votre question. Salam alaikum, cher. Qui aura la pire des positions devant Allah Azzawajal? Qu'Allah fasse de nous des femmes pieuses. Donc je répète la question, cher. La sœur, elle demande qui aura la position la plus délicate, la pire des positions devant Allah Azzawajal. Non, c'est pas ça? Un instant, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pouvez-vous écrire le hadith sur la personne qui aura la pire des positions devant Allah Azzawajal? Qu'Allah fasse de nous des femmes pieuses. Amin.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle a dit, pouvez-vous écrire le hadith? Inch'Allah ta'ala, je suis en train de l'écrire. Tayyib. O Aïcha, il a dit, O Aïcha, l'homme qui aura la pire position. Naam, il a dit, l'homme qui aura la pire position. Qui aura la pire position. Je suis un peu lourd, hein? Je suis un peu lourd quand j'écris. Auprès d'Allah, et celui que les gens délaissent. Et celui que les gens délaissent. Et celui que les gens délaissent pour éviter sa grossièreté. pour éviter sa grossièreté. Voilà, inshallah ta'ala, le hadith, voilà le hadith rapporté par Bukhari. Par Bukhari, volume 10, page 528. Vous m'excusez pour les accents. J'ai un laptop américain. C'est-à-dire, il n'y a pas les accents chez moi. Non, il n'y a pas d'accent. Donc, ô Aïcha, l'homme qui aura la pire position auprès d'Allah est celui que les gens délaissent pour éviter sa grossièreté. Donc, voilà, hadith rapporté par Imam Bukhari, rahimahullah.
Barakallahu fik Sheikh. Donc maintenant c'est la question de Hafusa. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Une sœur demande quel est le comportement à avoir dans le cas où l'on se trouve dans un pays musulman et un agent de police nous arrête en voiture sans raison et nous donne une contravention, un PV, en disant un mensonge sur une faute supposée. Si je donne une petite somme d'argent pour éviter de payer cette contravention, est-ce que c'est considéré comme de la rachwa ou pas? Jazakallahu khayran, barakallahu fik. Est-ce que c'est considéré comme, en français, comment on dit rachwa pour les autres? Corruption, corruption. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Faudrait que vous sachiez une chose. C'est quoi? C'est que la corruption, la rachwa, c'est tout ce qu'on donne. Ce qu'on donne, pour, on dit en arabe, ou ma yudfa min hadaya, ou ma l'ouaïrihi, li tahqiqi batil, ou ibtali haq. C'est tout ce qu'on donne, c'est tout ce qu'on donne à autrui comme cadeau et argent, etc., pour que quelque chose, yani, qui n'est pas notre bien, devient notre bien. Ou bien pour que bon à des tahqiq batil et le contraire, c'est-à-dire une chose ne m'appartient pas, alors je donne quelques cadeaux là pour que la chose m'appartienne. Je donne un exemple très simple pour que vous compreniez. Imaginez par exemple que l'État, par exemple, par exemple, autrefois en Algérie, par exemple, quand on achetait, par exemple, un camion là, même pas un camion. Je me rappelle, ce fut un temps en Algérie où quand voulait acheter un frigo, par exemple, tu vas marquer ton nom au Monoprix et tu attends 1 mois, 2 mois, après on t'appelle et on te dit, par exemple, voilà, par exemple, toi, tu es le 20e. Donc, yani, tu fais partie du lot aujourd'hui. El Mohim, maintenant supposons que mon frigo est arrivé. C'est-à-dire c'est moi qui vais le prendre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une personne qui va donner au responsable un cadeau. Et moi, on va me jeter en arrière du 20e, je vais devenir 50e. El Mohim. Donc ici, on a donné l'argent pour prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Non, il a donné le cadeau responsable pour qu'il prenne le frigo à ma place. C'est pour ça que les savants ont dit, quand on donne de l'argent ou bien autre chose à quelqu'un, à cause que c'est notre bien, il ne veut pas nous le donner. Dans ce cas, c'est lui qui a les péchés. Par exemple, maintenant, le frigo est arrivé. Non. Je dis au responsable, donnez-moi mon frigo. Ça fait 3 mois que je l'attends. Il ne veut pas, il me dit sauf je ne le donne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il veut m'empêcher de mon bien. Ça, c'est mon haq, le frigo. Il me revient à moi. Il ne veut pas me le donner que si je lui donne de l'argent. Dans ce cas, je lui donne de l'argent et c'est lui qui a fait le péché et pas moi. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, radiallahu ta'ala anhu, quand il a été emprisonné, il le laisse sortir. Il lui a donné des choses, quelque chose comme ça, je ne sais pas quoi exactement, et il l'a laissé sortir de prison. Donc quand tu as un droit, c'est ton droit, on ne veut pas te le donner. On te dit, sauf si tu donnes de l'argent en plus. Tu donnes de l'argent à cette personne, et c'est cette personne qui aura les péchés, pas toi. Parce que cette personne voulait t'empêcher de prendre ton droit. Ton droit. Naam. Et le contraire, une personne veut te faire le mal. Et elle te dit, ou bien tu donnes de l'argent, ou bien je te fais le mal, ou bien je t'emprisonne, ou bien je t'expulse, ou bien ceci, si tu donnes pas l'argent. Non, tu lui donnes et c'est lui qui ira en enfer et pas moi. Non, donc ici, non, si le policier va faire une contravention, non, va faire une contravention, non, je le laisse faire la contravention. Non, je le laisse faire la contravention. Mais si maintenant je sais que je n'ai rien fait, non, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait, je n'ai fait aucune contravention, mais il veut mentir. Il veut mentir, il me dit, tu me donnes par exemple 10 euros, sinon j'écris cette chose. Et que je sais que ça, c'est vraiment, ça va me faire du mal, ça risque même de m'emmener en prison, je lui donne les 10 euros, ici, bien au Ta'ala. Et ça fait une grande différence entre ça et celui qui donne aux policiers comme ça. Ouais, tu te trompes, c'est toi qui fais la faute. Ensuite, tu dis, je donne aux policiers pour qui? Pour qu'ils ne me fassent pas une contravention. Ça, c'est la corruption. La corruption, tu as fait la faute et tu lui donnes l'argent ou le cadeau pour qu'il ne marque pas la faute. Quant à notre cas, c'est autre chose. Tu n'as pas fait de faute. Il a voulu t'accuser. J'espère que vous avez compris la différence. On va bientôt terminer.
Salam alaikum, Cheikh. Attendez, je cherche la question. La question de la ourte, elle demande, elle a une fille qui est en âge de se marier. Son mari, il est mort depuis 10 ans. Elle a envoyé sa fille en Algérie pour les vacances. Et le grand-père, il a pris l'initiative de marier sa fille sans en parler à la mère, avec un cousin de la ville. Sans en parler à la mère et sans son consentement. Est-ce qu'il a le droit de faire cela? Akalaw fikoum cheikh.
Walaykoum salam, rahmatoullah. Il me semble que Abou Marwan n'a pas lu ma question. J'avais dit, Naam, est-ce que la fille a le père? Où est le père de la fille? Ça, ma question. Est-ce que la fille a le père? Ah, son père est mort. Allah yirhamou. Allah subhanahu wa ta'ala. Yirhamah. Naam. Tayyib, le père, pour que vous sachiez quels sont les tuteurs, vous savez que, Naam, si une femme veut se marier, non, si elle a par exemple un fils, non, son fils, c'est lui qui vient en premier lieu, avant son père à elle. Non, son fils, si elle est mariée, son fils, c'est le premier qui a le droit à la marier. Non, elle m'a envoyé un fils au bled, mais grand-père veut la marier sans même en parler à ma mère. Non, de toute façon, non, le grand-père devait quoi? Devait demander l'avis de la mère, au moins par respect, au moins par respect. Certes, la tutelle lui revient si elle a un frère de 17 ans. Naam. Mais le grand-père passe avant le frère. Abou Marwan, le grand-père passe avant le frère de celle-là. Naam. C'est comme ça dans la tutelle. On commence par le père, ensuite on monte au grand-père. S'il n'y a pas, Naam, on descend aux autres. Je disais que, non, je disais quoi? Je disais que, qu'est-ce que je voulais dire? Non, il devait au moins demander l'avis à sa mère. Au moins demander l'avis à sa mère. Et maintenant, je dis à sa mère, si Allah Ibarak, il lui a choisi quelqu'un de bien et que cette personne lui convient, non, il ne faut pas maintenant revenir en arrière et essayer Annie, de couper, etc. Alhamdoulilah, s'il lui a choisi quelqu'un qui lui convient et que elle était consentante et que maintenant elle est heureuse, Inch'Allah ta'ala, il suffit. Naam, il ne s'est jamais occupé de l'enfant. Ça. On voit maintenant quel est le résultat. S'il a bien marié, etc., on dit Alhamdoulilah, c'est le grand-père paternel. Naam, c'est le grand-père paternel qui peut marier, justement. Justement, le grand-père maternel n'a pas le droit de marier. Le grand-père maternel n'a pas le droit de marier. Naam. Donc, on voit maintenant si elle est là, on dit Alhamdulillah. Sinon, elle voit yani, comment. Ça y est, moi je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle s'est déjà mariée ou pas? Est-ce qu'elle est déjà mariée ou pas? Moi je croyais qu'elle était déjà mariée depuis longtemps. Est-ce qu'elle est déjà mariée ou pas? Est-ce qu'ils ont fait l'ars, etc.? Pas encore. Non. Le grand-père, et lui dire, voilà, non, Yani, je ne suis pas d'accord pour tel et tel, par exemple, Osmo, pour tel et tel enfant, pardon, pour tel et tel prétendant. Il dit, je ne suis pas d'accord pour tel et tel prétendant. Non, je ne vois pas pourquoi elle ne lui parle pas. Elle lui dit, non, ce prétendant ne nous convient pas, on voudrait un autre, vous êtes le grand-père, mashallah, etc. Non, si y a jamais quelqu'un qui que vous trouvez qui remplit les conditions Sahara, mais le mari avec la mariée avec cette personne ne nous convient pas. Et comme ça, non. Pour les tuteurs, non, je répète que pour que vous sachiez, Inch'Allah ta'ala, et vous ne vous trompiez pas, non, le premier qui a le droit à la tutelle, si vous vous souvenez, ceux qui ont assisté avec moi, Sharh al-Mumti', c'est le père, ensuite le grand-père paternel, s'il n'y a pas le père. Ensuite on va au fils, ensuite le petit-fils. Non, mais le petit-fils du fils, pas de la fille. Ensuite, on va au frère. Non, le frère consanguin. S'il n'y a pas, on va au frère paternel, du côté père, mais on ne va pas au frère, non, du côté mère. Sinon, on va au fils du frère. Sinon, le frère consanguin. Sinon, on va au fils du frère du père. Sinon, on va à l'oncle des deux côtés. Sinon, l'oncle paternel. Sinon, le fils de l'oncle des deux côtés. Sinon, le fils de l'oncle paternel. Donc tout à l'heure, moi, quand j'ai dit, elle commence par le fils. Naam. Le fils, en fait, vient en troisième position. On commence par le père. Naam. Ensuite, le grand-père, ensuite le fils. Ce que je voulais dire, c'est que le fils vient avant le frère et pas avant le père. Naam. Je me corrige. Le fils vient avant le père, avant le frère et pas avant le père. Il ne veut rien. Si la fille refuse le mariage, il n'a pas le droit de la marier. Le mariage est nul. Naam. Donc je dis à cette mère, je dis à cette mère, demande à la fille. Naam, si elle ne veut pas de ce mariage, c'est elle qui doit dire. Elle dit, je n'accepte pas. Mais elle accepte, la fille accepte. Naam. La fille normalement, naam, elle accepte avec l'accord de sa mère. Ce n'est pas. Elle jette sa mère de côté, qui l'a élevée toute sa vie, qui l'a fait grandir. Ensuite, maintenant, elle dit, je me marie comme je veux. Non, si c'est, elle n'aurait pas accepté. Elle dit, moi, je me marie avec la personne que ma mère veut et me choisit. Non, sauf si vraiment la personne ne remplit pas les conditions. Donc voilà ce que j'ai à dire pour cette affaire. La mère doit contacter la fille et lui faire la morale. Non, lui faire la morale et lui dire que Naam, elle ne doit pas accepter et dire au grand-père que j'accepte pas cette personne si Naam, elle lui convient pas, si cette personne ne lui convient pas. Naam. Wallahu ta'ala alam, tafadhal.
Question de Mustapha 92. Salam alaykoum, Cheikh. J'ai un problème. Lorsque je fais mes ablutions, je dois toujours recommencer mes ablutions 5 fois ou plus. Je coupe mes ablutions tout le temps. Ça devient trop dur pour moi et j'y passe beaucoup trop de temps. Et je les coupe tout le temps et je dois toujours refaire la prière. Donc je ne vais plus à la mosquée et pour la prière du Jamoa, c'est très difficile. Je les coupe. Donc je reste et puis je fais salat de dehors une fois que je rentre chez moi. Donc je ne sais plus quoi faire avec ce problème. Barakallahu fikoum, Cheikh.
Je dis à cette personne, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette personne peut-elle me dire, Nam, c'est quoi exactement le problème? C'est le problème de ouest-ouest ou bien de gaz? Que sont ces problèmes? Pourquoi, que sont cette personne? Pourquoi elle se dit, je n'ai plus les ablutions? Nam, Mustafa 92. C'est quoi exactement le problème? Si tu peux, Inch'Allah ta'ala, si tu veux, tu prends le micro, Inch'Allah. Tayyib. Donc, elle perd constamment avec des gaz. La réponse c'est, naam, la réponse c'est, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a constamment des gaz, ou bien on a une incontinence urinaire, on ne peut pas contenir les urines, comme on ne peut pas contenir les gaz, comme on ne peut pas contenir autre chose, qu'est-ce qu'on doit faire, naam? On doit ne pas faire des ablutions jusqu'à ce que vienne l'heure de la salate. Plus exactement, jusqu'à ce que vienne le moment de la salate. Le moment, ça veut dire, si dans 2 minutes je vais faire la prière, c'est maintenant que je vais faire les ablutions. Naam. Si par exemple, je vais à la mosquée, Donc je vois s'il y a là-bas où faire les ablutions, de préférence je fais les ablutions là-bas à la mosquée. Comme ça, je sors des toilettes de la mosquée, je vais directement au robinet, je fais mes ablutions et je rentre dans la salat. Je dis Allahu Akbar. Et même quand je dis Allahu Akbar, même si les gaz sortent de moi, justement, je ne sais pas si c'est vraiment des gaz, des osouas. Je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Ce que je suis en train de dire s'applique. Que ce soit des gaz ou bien des osouas. Ce que je suis en train de dire s'applique. C'est la salat, tu vas faire les wudu et tu rentres avec les gens dans la salat, tu dis Allahu Akbar. Ensuite, tu ne sors pas de la salat, même s'il y a des gaz. Alors qu'en est-il s'il y a seulement des osouas? S'il y a des osouas, yani, alhamdoulilah, tu es plus. Beaucoup plus excusé de ne pas sortir de la salade. Moi, je te dis, même s'il y a des gaz et tu entends quelque chose qui est sorti de toi, ou bien il y a une odeur, une mauvaise odeur, tu continues ta salade et ta salade est valable à 100% et acceptée par Allah Azzawajal qui a dit au messager d'Allah de nous montrer la religion qui est facile et très simple. Naam, je connais beaucoup de personnes, surtout des sœurs, naam, qui, qu'Allah Ta'ala nous en préserve, ont cette maladie et qui font les wudu, naam, 10 à 15 fois. Je te dis, moi, même s'il y avait l'odeur et le bruit, tu entends quelque chose, tu ne sors pas de ta salat et elle est acceptée. Alors, qu'en est-il s'il n'y a ni bruit ni rien? Regarde, pour que tu aies le cœur apaisé, pour que tu aies le cœur apaisé. Naam. Il y a quelqu'un ici, dans la mosquée, chez nous ici, qui est malade de cette chose. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Il est malade de quoi? Il y a des gaz qui sortent de lui avec bruit. Hein? Ce qu'on appelle, quand il fait le ruku, il commence à faire sortir des gaz avec le bruit. Quand il dit Sami Allah li Hamida, il y a des choses qui sortent de lui. Et des bruits que tout le monde entend. Et jamais il n'est sorti de la salat et jamais il n'est allé faire le wudu. Et tellement les gens se sont habitués, ils savent que c'est une maladie. Non, c'est devenu normal. S'il y a quelqu'un qui va l'entendre la première fois, c'est devenu quelque chose de normal. C'est quoi? C'est une maladie. Comme celui-là, il a la fièvre, l'autre, des maux de tête, celui-là, il a une maladie dans son estomac. Il fait des wudu 2 minutes avant la salat et il va directement dans la salat, il dit Allahu Akbar. Dès qu'il a dit Allah, on doit dire Allahu Akbar. Maintenant, quand il a dit Allahu Akbar, il n'est plus responsable. Tout ce qui sort de lui, l'odeur, le bruit, tout ce qu'il y a, naam, il est excusé devant Allah Ta'ala. S'il va refaire les wudu, il risque d'avoir des péchés. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala lui dira, je t'ai facilité, tu as voulu rendre les choses difficiles. Je t'ai facilité les choses. Je t'ai dit, la salat, c'est pour qui? C'est pour moi ou là pour une autre personne? Si c'est pour moi, je l'accepte. Je l'accepte. Tu as fait ce que tu peux, alhamdoulilah, tu ne peux pas faire plus que cela. Car beaucoup de gens suivent leur ouest et quittent la salat. Ils disent, je peux plus, c'est trop dur, je peux plus, classe, c'est difficile. J'étais bien quand, sans la salat, j'étais mieux. Cela, on leur dit, c'est l'ignorance qui vous pousse à dire cela. Si vous savez combien l'islam est facile, naam, vous n'auriez pas agi ainsi. Naam. Encore une question, inshallah, tafadhal.
Salam alaikum. Des sœurs demandent si elles peuvent faire du vélo à l'extérieur de chez elles, dans un endroit où il y a très peu de personnes. Moi, je leur ai répondu que la femme pieuse n'a pas à faire cela. Mais elles me disent que à vélo ou à pied, c'est pareil, c'est la même chose. Salam alaikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Il y a des hommes qui les voient ou là il n'y a pas? Non. Il y a des hommes qui les voient ou il n'y a pas? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Numéro 1. Écris-moi. Oui, quelqu'un. Non. Franchement, Annie, je n'ai pas de réponse claire. Je n'ai pas de réponse claire. Pourquoi? Pour la bonne raison que la femme montée sur le cheval et montée sur l'âne et montée sur le chameau au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on va comparer entre le vélo et la monture, hein, peut-être qu'il n'y a pas une grande différence en ce sens. Peut-être qu'il n'y a pas une grande différence en ce sens. Mais quelqu'un pourrait me dire que en vélo, peut-être la femme se découvre beaucoup plus qu'elle n'est à cheval ou là. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ce que je sais, c'est que si elle s'éloigne des choubouettes, c'est mieux pour elle. Ou qu'on ne dise pas celle-là, elle a un caractère frivole, etc. Non. Non. C'est pour ça que je dis, si elle ne fait pas cela devant les hommes, c'est mieux. Pour qu'on ne dise pas quoi? On ne dise pas, regardez les musulmanes, qu'est-ce qu'elles font, et elle a un caractère frivole, etc. Mais si elle le faisait, yani, dans un jardin, par exemple, de la maison, ou là, yani, chez elle, où il n'y a pas d'homme, bien sûr, le vélo n'est pas interdit. Le vélo n'est pas interdit pour la femme, s'il n'y a pas d'homme qui la voit. Non. Et comme ça, devant les hommes, on risque de lui mettre des accusations et de dire la moindre des choses. Yani, celle-là, elle est frivole et je ne sais pas quoi. Wallahu ta'ala a'lam. Encore une question?
Salam alaykoum wa rahmatullah. Cheikh, Allah yhafdik et qu'il vous accorde le firdaous amin. Ma question. Pouvez-vous me dire si Allah subhanahu wa ta'ala regarde ses serviteurs différemment, fi bilad al-kufr, par rapport à ses serviteurs d'un pays musulman? Barakallahu fikoum ya Cheikh pour le temps que vous nous accordez.
En fait, wa alaykoum salam wa barakatuh. Je dis à qui? Abu Bilal. Abu Bilal. Naam. Je n'ai pas bien compris que veulent-ils dire par regarde ses serviteurs différemment. Comment différemment? C'est-à-dire qu'elle veut dire il n'est pas ravi d'eux ou là qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Si quelqu'un peut m'expliquer, naam, qu'est-ce que ça veut dire ici différemment? C'est-à-dire à cause qu'ils n'ont pas fait la hijra, ou bien que veut dire la personne? Voilà, j'ai pas compris. Tfadlal.
Salam alaikum. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous excuse moins ou nous fera moins de miséricorde ou est moins ravi de nous dans le jugement.
Non, maintenant j'ai bien compris la question, inshallah ta'ala. La réponse, c'est que, non, vous savez que en général, il n'est pas permis à quelqu'un de rester dans Bilad al-Kufr. Et que chaque personne, naam, doit faire le maximum pour quitter le pays à chaque fois que l'occasion propice lui vienne. Naam. Et je dis et je redis toujours aux personnes qui vivent toujours dans les Bilad al-Kufr d'avoir au moins la niyya dans le cœur. Car si jamais tu as la niyya et l'intention dans le cœur de quitter dès que l'occasion se présente et tu meurs, Allah Ta'ala écrira, c'est comme si tu avais quitté. Mais ce qui est grave, c'est pour ceux et celles qui sont toujours là-bas et qui s'y plaisent et disent dans le cœur, moi, alhamdoulilah, je suis là, je manque de rien, je suis là avec les kuffars, je suis masha'Allah. Ce sont ceux-là, naam, qui c'est grave pour eux d'avoir vécu avec les kuffars et bien sûr d'avoir pris de leurs habitudes, de les avoir aimés sans le vouloir, d'avoir pris de leur langue, d'avoir pris de leur façon de s'habiller, de leur façon de penser, leur façon de manger, comme ça. C'est pour ça que c'est interdit de vivre avec les kuffars. Vous savez pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, on devient influencé par eux. Et si on devient influencé par quelqu'un, petit à petit, on va l'aimer. Et si on aime, on est prêt à quoi? À limiter au maximum. Vous voyez pas comment les gens imitent Michael Jackson et l'autre il imite Johnny Hallyday, je ne sais pas qui. Hein, il s'habille comme lui, il veut se coiffer comme lui. Pourquoi? Parce qu'il l'a aimé. C'est impossible qu'on déteste une personne et qu'on l'imite. Naam. Donc c'est pour ça que yani, la personne doit faire son possible pour quitter ce pays dès que l'occasion se présente, Inch'Allah Ta'ala. Mais, autre chose très importante, pour ceux qui ont des excuses et n'ont pas encore quitté et ont des excuses, n'oubliez pas aussi que Allah Ta'ala vous donnera beaucoup de hasanat de vivre en plein fitna et d'appliquer le din, masha'Allah, comme vous l'appliquez entoum. Ahsabukum kadalik, wallah hasibukum, law zaki Allah ahadan. Naam. Comme ça, en plein pays de Kouf, où les fitna sont très, très grandes et très graves. Et partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, partout les grandes fitna. Naam. Et masha'Allah, la prière à l'heure, le qamis, le djilbab, masha'Allah, je vous dis, masha'Allah, yani, alaykoum, masha'Allah, alaykoum, naam. تفضل ان شاء الله تعالى لا كيستيون.
السلام عليكم شيخ. Certains frères mettent des serwels qui descendent un peu plus bas que les chevilles, sachant que c'est des frères qui se revendiquent du minhaj salafi. Sur quoi se base-t-il ?
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Je ne crois pas qu'il se base sur quelque chose. Il n'y a pas une chose, نعم, qui permette de mettre quoi ? De mettre le serwel en bas. نعم. Sauf si par exemple une personne, par exemple, comme le messager d'Allah a permis aux hommes de mettre par exemple la soie, s'ils sont malades, naam, car les autres tissus, naam, peuvent agrandir la maladie, une certaine maladie, où on doit se gratter. Mais avec la soie, naam, il n'y a pas de... Yani ça allège les grattements. Il se base sur la niya. Il n'y a pas de niya dans cette chose. Il n'y a pas de niya dans cette chose. Tout vêtement qui est en bas des chevilles, il est haram. Il est haram. On doit le mettre yani plus haut que des chevilles. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadlan.
Assalamu alaikum, Cheikh. Donc la sœur, elle vous avait déjà posé la question. Mais vous lui aviez dit que vous alliez vous renseigner auprès des gens de science en Arabie Saoudite. Donc je relis, Inch'Allah, la question qu'elle vous avait posée en tout premier. Il y a des sœurs qui vendent des articles neufs dans des ventes privées entre sœurs ou sur des forums internet. Dans les lois en France et les lois des pays des koufars en général, quand on est simple particulier et qu'on vend comme un professionnel, on doit se déclarer. Sinon, ça devient de la vente illicite. Je voudrais savoir si on doit se conformer ou non à ces lois. D'autre part, il y a des frères et sœurs qui vendent et qui déclarent, et ce conformément à la loi du pays. Et ceux qui ne déclarent pas vendent à des prix plus bas, ceux qui n'arrangent pas, ceux qui vendent en déclarant leurs marchandises. Car eux, ils doivent mettre les prix inclus avec les charges. Que dit la charia sur cette situation? Est-ce que c'est une injustice ou non? Pouvez-vous dire avec des preuves, car les sœurs en demandent, Inch'Allah. Barakallahu fikoum ya shir pour votre réponse.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Non. Aujourd'hui, c'est samedi, Inch'Allah ta'ala. Je dis à cette personne, lundi, Inch'Allah ta'ala, tu auras la réponse. Aujourd'hui, c'est samedi. Lundi, Inch'Allah ta'ala, tu auras la réponse. Mais sache que, naam, Inch'Allah ta'ala, à 99%, regarde, 99%, je laisse seulement 1%, Inch'Allah ta'ala, que il est interdit de vendre. Et que, naam, c'est illicite, car qu'il soit kafir ou muslim. Quand on vit chez lui, il met ses lois, naam, on ne doit pas les surpasser. Naam. Mais Inch'Allah ta'ala, lundi bi'idhnillah ta'ala, je te donne la réponse, Inch'Allah ta'ala, officielle et la dernière réponse, Inch'Allah ta'ala. Naam. Tfadla, le prochain.
Abu Salman 1, Inch'Allah, votre question, barakallahu fik. Abu Salman 1, Inch'Allah, ou Mahdi Salafia. Elle a déjà posé sa question, ou Mahdi Salafia, elle vient de poser là sa question. Donc... Abu Salman ou Ibrahim 1976. Ibrahim 1976, Inch'Allah, envoyez-moi votre question. Voilà, la sœur, elle a envoyé. Je vous lis la question de Ibrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Un frère est dans la situation suivante. Sa mère lui impose de se marier avec la fille de son oncle qui vit au Maroc, qui devra par la suite ramener en France une fois mariée. Mais le frère ne veut pas se marier avec elle, bien qu'il a essayé de se forcer pour faire plaisir à sa mère et pour éviter les fitnas. Le frère aimerait se marier avec une sœur qui suit le minhaj salafi, vivant en France, qui a des critères qui ne plairont pas à sa mère. C'est une sœur divorcée avec des enfants. Le fait qu'il n'obéisse pas à sa mère rentre-t-il dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal? Et qu'en est-il du mariage avec le cousin ou la cousine proche? Barakallahu fikum shaykh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. En principe, je dis bien en principe, naam, on ne se marie qu'avec la personne qui remplit les conditions. Non, on ne se marie pas à cause de, yani c'est la mère qui l'a choisi ou le père. Mais on se marie avec la personne si elle remplit les conditions. Car ma mère peut me marier avec la voisine, car elle aime bien la voisine et elle s'entend avec elle. Et les deux, elles s'entendent très bien parce qu'elles vont beaucoup chez la sorcière. Elles sont donc de bonnes amies. Donc elle va marier avec cette voisine ou avec sa fille. Non, ce n'est pas comme ça. Mais en principe, on se marie avec la personne qui remplit les conditions et la personne envers laquelle, ou bien on sent des penchants, ou bien on voit qu'il y a des affinités, ou bien à cause de c'est une personne pieuse, et comme ça. Vous connaissez le hadith. Je dis mais si une personne aime tellement sa mère qu'elle veut lui faire plaisir, dans ce cas, si elle accepte l'offre, elle accepte l'offre de sa mère, il faut pas après que tous les jours ou là, toutes les semaines, eh bien dire à sa mère pourquoi tu m'as marié, pourquoi ceci, et maintenant celle-là me plaît pas, etc. Il faudrait qu'elle réfléchisse bien avant de prendre la décision finale. Naam, faut pas que elle va se dire je me marie pour faire plaisir à ma mère, j'aime beaucoup ma mère. Ensuite, elle va se renverser sur sa mère. Naam, toutes les semaines, elle va lui dire tu n'aurais pas dû, j'aurais pas dû te suivre et ceci, cela. Donc, il faut qu'elle sache très bien ce qu'elle va faire. C'est pour ça que l'essentiel, c'est de se marier avec, comme j'ai dit, une personne qui nous convient. Car c'est nous qui allons vivre avec la personne et ce n'est ni mon père ni ma mère qui vont vivre avec cette personne. Si Allah Ta'ala, yani, nous a aidés et m'a choisi une personne qui en même temps me plaît et plaît à mes parents, ça c'est Fadlullah, c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Sinon, il fait comme je viens de dire. Wallahu Ta'ala alam. Tfadl.
Abou Salman, inshallah, votre question ou Alhamdulillah, inshallah, votre question. Barakallahu fikoum, préparez vos questions les autres. Kenza Jalil et Idriss 94. Et Cheikh, en attendant qu'il nous donne les questions, parce qu'à la fin de la question de la sœur, elle demandait aussi, et qu'en est-il du mariage avec le cousin et la cousine proche? Le fait de se marier avec son cousin et sa cousine proche. En attendant que les autres questions, elles arrivent. Barakallahu fik, Cheikh.
En fait, j'avais oublié de répondre à cette question. Ça, j'avais oublié de répondre à cette question. Naam. En islam, bien sûr, ce n'est pas interdit de se marier avec sa cousine et sa cousine proche. Naam. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, ne s'est-il pas marié avec yani, une proche à lui qui est Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son prophète, son cousin, et celle-là, c'est la fille de son cousin. Non, ce n'est pas interdit en islam de se marier avec le cousin ou la cousine. Reste que, yani, il y a un peu ce qu'on appelle le mélange, ou là, comment ça s'appelle, de sang, et qui risque de donner, des déformations, comme ça a été trouvé dans plusieurs cas. Vous savez que dans plusieurs cas, des proches se sont mariés et je ne sais pas comment on dit ça médicalement, et ça a donné, yani, quelques déformations chez les gens. Et on dit ça, yani, je sais pas comment on dit ça, j'ai oublié. Je veux dire qu'en islam, ce n'est pas interdit. En islam, ce n'est pas interdit de se marier avec quoi? Avec les proches.
Abou Salman, je crois qu'il n'est pas là, Allahu alam. Alhamdulillah, Inch'Allah, votre question. Salam alaikum, Cheikh. Si j'ai un premier enfant s'appelant Mohamed, ma kunya est Abou Mohamed. Puis-je changer de kunya à la suite de la naissance de mon deuxième enfant qui s'appelle Omar? Ou dois-je garder la kunya du premier enfant? Barakallahu fikoum, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. On n'est pas obligé de garder la kunya du premier. C'est en fait sur le premier que la plupart se basent. Quand quelqu'un dit Abu Ali, ça veut dire le premier c'est Ali. Mais ce n'est pas une obligation. Si je veux m'appeler par exemple moi, mon petit enfant, par exemple, ça s'appelle Ibrahim. Ça se fait. Naam, ça se fait. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim, c'est mon enfant, c'est un de mes enfants. Naam, donc, ce n'est pas une obligation de s'appeler par le grand. Naam. Là, quelqu'un, par exemple, veut m'appeler Abou Safia, si j'ai une fille qui s'appelle Safia. Ça se fait aussi. Y a-t-il un délil? Justement, c'est le contraire qu'on doit dire. Y a-t-il un délil qui empêche? Alhamdoulilah. C'est la question maintenant se pose à toi. Y a-t-il un délil qui empêche? J'attends ta réponse. Allahu alam, non, il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est permis. C'est parce qu'il n'y a pas que c'est permis, inshallah ta'ala. Naam. Tfadla.
Kenza Jalil, Inch'Allah, elle est en train de recopier sa question qui est un peu longue. Mais là, il y a une sœur qui a passé son tour. Et je ne sais pas à qui elle a posé la question. Il y a quelqu'un qui dit, hier, tu disais que Allah était dans le ciel. Donc, je répète ma question. Si tu dis que Allah est dans le ciel, alors selon toi, où était-il avant la création du ciel? Tu as attribué un endroit à ton créateur. Ah non, ça c'était pas pour vous, Cheikh, excusez-moi. Mais Inch'Allah. Non, Cheikh, je me suis trompé de question. Ça c'est quelqu'un qui m'a posé la question à moi. Mais Inch'Allah, eh ben, puisque la question a été posée en public, Inch'Allah, eh ben, vous allez donner la réponse pour enlever l'ambiguïté de ces gens-là. Est-ce qu'il est là? Inch'Allah, attendez, je vais l'inviter. Mais en fait, il posait la question à moi parce que c'est moi hier, j'ai dit cette phrase. Et je pensais qu'il avait suivi votre cours. Attendez, est-ce qu'il est là? Naam, il est là. Attendez, je le rajoute dans ma chose et je vais l'inviter dans le salon. IGKLMNOPQRST. Naam, il est là. Salam alaykoum, Cheikh, vous pouvez répondre, hein. Vous pouvez répondre, Inch'Allah, la personne, elle vous entend, Inch'Allah. Vous voulez que je répète la question? Oui, en fait, Cheikh, salam alaykoum, excusez-moi, il y a eu une ambiguïté. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question à moi. À Abu Marwan, et moi je croyais que la question c'était pour vous. Mais comme j'ai lu la question, ben Inch'Allah vous allez lui répondre. La personne elle m'a dit à moi, hier toi Abu Marwan, tu disais que Allah il est au-dessus de son trône. Si tu dis que Allah il est dans le ciel au-dessus de son trône, où était-il Allah Azawajel avant la création du ciel et avant la création du trône? Tu as attribué un endroit à ton créateur. Ça c'est un Habbash ça qui m'a dit ça en privé. Inch'Allah, Cheikh, répondez-lui, barakallahu fik.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, les Habesh, il ne faut pas leur en vouloir. Naam. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'apprennent pas la religion. Naam. Ce sont des gens qui quoi? Qui suivent comme ça aveuglément et qui ne veulent pas chercher la vérité. Ils disent pas, viens, on va écouter celui-là, on va écouter celui-là et on va comparer avec qui est le délire. Mais on leur dit comme ça des choses, ils disent quoi? Ils disent khlas. Puis celui-là l'a dit khlas. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez cela. Naam. On suit Abu Hanifa. Donc eux, quand ils vont entendre ça, on va entendre ça, ils vont dire, donc Abu Hanifa dit que, dans sa aqida, dit que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, ni au-dessus des cieux. C'est ça, être hanafite. Écoutez ce que dit Abu Hanifa, rahimahullah, dans son livre qui s'appelle Fiqh al-Absat, page 46. Il a dit, « Man qala la a'rifu » Rabbi, am fi samai, am fi l'ard, faqad kafar. Fiqh, l'absat, page 46. Abu Hanifa dit, quiconque dit, je ne sais pas si mon Seigneur est sur terre, naam, ou bien au-dessus des cieux, il est devenu kafir. Je répète en arabe, man qala la a'rifu, Rabbi, fi samai, am fi l'ard, faqad kafar. Quiconque dit, je ne sais pas si mon Seigneur, Dieu, est au-dessus des cieux, ou bien sur terre, il est devenu kafir. Donc, Abu Hanifa qui a dit ça, Fiqh al-Absat, son livre, Fiqh al-Absat, page 46. Écoutez ce qu'a dit Abu Hanifa. C'est-à-dire, sans parler maintenant des versets ni des hadiths, hein, on parle des savants. Écoutez ce qu'il a dit encore. Hein. Dans le même livre, page 46, il a dit, وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض. Page 46, toujours, il a dit, quiconque dit que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, regardez, les Habesh disent Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, là. Abu Hanifa dit, même si tu dis Allah est au-dessus du trône, mais tu dis, je ne sais pas si le trône est sur terre ou au-dessus des cieux, il a dit, il est devenu kafir. Je lis en arabe, wa kada, ça veut dire, il est devenu kafir. Et aussi, il est devenu kafir, man qala, quiconque a dit, Innahu ala al-arsh, Allah Ta'ala au-dessus du trône, wa la adri al-arsh, afi s-sama am fi al-ard. Mais je ne sais pas si l'arche est au-dessus des cieux, naam, ou bien sur terre. Il a dit, il est devenu kafir. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Vous voulez écouter ce qu'a dit Abu Hassan al-Ash'ari? Eux, ils disent, on suit Abu Hassan al-Ash'ari. Écoutez ce qu'il a dit, Abu Hassan al-Ash'ari, dans son livre, Maqalat Islamiyin, page 71-72. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala, kama qal, ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus du trône, comme il a dit. Ar-Rahman au-dessus du trône. Et que Allah ta'ala, lahu yadayn, bilakif. Et Allah ta'ala a deux mains qui lui conviennent. Car il a dit, khalaqtu biyadayn, j'ai créé avec mes deux mains. Et comme il a dit, ça se trouve, Maqalat Islamiyin, page combien? Page 71-72. Pour ceux qui disent que nous sommes des Habesh, nous suivons l'imam Abu Hanifa et on suit Abu Hassan Ash'ari. Moi je vous dis, vous ne suivez ni le Coran, ni la Sunna, ni Abu Hanifa, ni Malik, ni Shafi'i, ni Ahmed. Vous ne suivez personne de cela et vous montez seulement sur eux. Vous dites, ils ont dit, naam, et ils n'ont pas dit, ils n'ont rien dit, ils n'ont dit que ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit son messager et ce qu'ont dit les Sahaba. Naam, car ce sont de grands savants. C'est impossible qu'il soit à l'encontre du Coran et de la Sunna. Naam. Donc, inshallah ta'ala, on passe à la dernière question. Tfadal. J'ai pas voulu vous dire, naam, ce qu'a dit Allah ta'ala dans le Coran et dans la Sunna en ce qui concerne l'élévation et le fait d'être sur le trône. Vous avez entendu beaucoup de doulos avec moi dans ce sens, mais c'est juste pour vous dire, ils disent que Abu Hanifa a dit et Abu Hassan a dit. Et Abu Hassan al-Ash'ari a dit. Et nous, on leur montre que ce n'est pas vrai. C'est tout. Tfadal.
Barakallahu fik, Sheikh. La question de Kenza Jalil. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh, le hadith dans le Sahih al-Bukhari 68 dit: Allah a son nom, moins un, celui qui les connaîtra entrera au paradis. Sait-on quel est le centième nom, Sheikh? Barakallahu fikum. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, Kenza Jalil, ce hadith veut dire que Allah Ta'ala n'a pas son nom, mais veut dire qu'il a 99. Parce qu'il a dit ici, il a dit Allah Ta'ala a son nom, sauf un. Ça veut dire qu'il en a combien? 99. Naam. Mais je voudrais dire à Kenza Jalil, voilà, 99. Je voudrais dire à Kenza Jalil et aux autres qui entendent, naam, que le plus vrai, naam, c'est qu'Allah Ta'ala a plus de 99 noms. C'est-à-dire qu'il a un nombre, si je puis dire, indéterminé. Plus exactement, personne ne sait combien Allah Ta'ala a de noms. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand quelqu'un a le chagrin, il dit le hadith suivant: Ibn Abdik, Ibn Amatik, Nasiyati Biyadik, Madin Fiyya Hukmuk, Adlun Fiyya Qada'uk, As'aluka Bikulli Ismin Huwalak, Sammeita Bihi Nafsak, Aw Anzaltahu Fi Kitabik, Aw Allamta Wahadan Min Khalqik, Aw Istafarta Bihi Fi Ilmi Al-Ghaybi Indak. Vous avez entendu ce qu'a dit le messager d'Allah? Ô mon Seigneur, je te demande par chaque nom, naam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu as caché chez toi. Sta'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Que tu as caché sa connaissance pour toi seulement, que tu n'as dit à personne. Donc c'est une preuve que Allah Ta'ala a beaucoup de noms et d'autres noms qu'on ne connaît pas. Si quelqu'un va dire, comment se fait-il le messager d'Allah alayhi sallam a dit qu'il avait 99 et vous vous dites qu'il en a plus? On dit, naam, il n'y a pas de contradiction. Quand le messager d'Allah avait dit que Allah Ta'ala avait 99, il voulait dire que il avait 99 qui, si quelqu'un les connaît et connaît leur sens et les applique, il va rentrer au paradis. Mais il n'a pas dit qu'il n'avait pas plus de 99. Pour que vous compreniez mieux, c'est comme si je disais, j'ai une voiture à vendre. Est-ce que ça veut dire j'ai seulement une voiture? Non. Si vous allez chez moi, vous allez trouver que j'ai trois voitures. Mais j'ai une voiture à vendre, une seule. Celle-là, elle est à vendre. J'ai deux autres que je ne vends pas. C'est comme s'il disait ici, il a 99 noms, quiconque les connaît, ces 99 vont aller au paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres noms. Il a d'autres noms, mais qu'il n'a pas mis ici sous la condition. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis que les autres noms, vous devez les connaître pour aller au paradis. Mais il a dit, j'ai 99 noms, quiconque les connaît, ira au paradis. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un dit, j'ai un esclave à vendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres esclaves à la maison, mais qu'il ne veut pas les vendre. Mais il a un esclave à vendre. Et c'est la même chose. Allah Ta'ala a 99 noms. Si quelqu'un va les connaître et connaître leur sens et les appliquer, il va aller au paradis. Mais en fait, il a plus de 99 noms. Peut-être qu'il a des milliers de noms, mais nous, on ne connaît pas. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour mercredi. Non, bref, pour lundi, Inch'Allah Ta'ala. D'ici lundi, je vous laisse fi hifdillah Azza wa Jal. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve tous, qu'il nous donne la sincérité, la piété, mais qu'il soit yani, ravi de nous. Amin, amin. Subhanak lamu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. طيب il a dit un instant Abu Marwan نعم a toujours quelque chose à dire. تفضل Abu Marwan.
نعم السلام عليكم شيخ. Parce que inchallah bon ça nous fait toujours très très plaisir de vous entendre et d'apprendre avec vous. Et alhamdoulillah depuis tout ce temps machallah et ben vous avez été très très utile pour nous. Et comme vous savez, comme vous avez dit Abu Marwan, il a toujours un petit truc à dire. J'ai une question, je vous la pose mais vous répondez pas aujourd'hui inchallah, vous répondrez la prochaine fois. Vous m'entendez ou pas, Cheikh? C'est une question de général, hein. C'est pas forcément une question religieuse, mais la religion, elle est dedans. Écoutez bien. Vous connaissez l'animal, le loup? Le loup. Dans une année, le loup, quand il fait des enfants, il en a entre 7 et 9. Et le mouton? Le mouton, la brebis, quand elle a des enfants en un an, elle en a un ou elle en a deux? Eh bien, moi, la question que je vous pose, c'est celle-là. Puisque le loup, il a entre 7 et 9 enfants, et le mouton, il en a qu'un seul. Et il y a 1 milliard de musulmans sur terre. Et le jour de la fête de l'Aïd, les musulmans, ils égorgent le mouton. Plus les koufars, ils égorgent le mouton et ils mangent du mouton. Et ben normalement, au bout d'un moment, sur terre, il y a plus de loups que de moutons. Comment ça se fait, chier que ben depuis des siècles et des siècles, toujours il y a beaucoup de moutons et il n'y a pas beaucoup de loups? Je ne sais pas si vous avez compris ma question, mais il y a un piège dans ma question. Comment ça se fait que le loup, il se multiplie entre 7 fois et 9 fois plus vite que le mouton? Et que normalement, au bout des siècles et des siècles, eh ben, il y a beaucoup de loups et il y a très peu de moutons. Mais là, on est arrivé jusqu'en l'an 2008 et sur Terre, il y a toujours beaucoup de moutons, alors qu'on les tue, alors qu'on les mange, alors qu'Allah, il les égorge. Et il n'y a toujours pas beaucoup de loups. Inch'Allah, vous répondrez la prochaine fois si vous trouverez la réponse. Barakallahu fikum. Et c'est Cheikh Albani, rahimahullah, qui avait répondu à cette question. Salam alaykoum wa rahmatullah. Allah yhafdik, Cheikh.
Naam, Abu Marwan, tu m'entends? Naam. Inch'Allah ta'ala, tu m'entends? Je vais, Inch'Allah ta'ala, réfléchir à cette question, naam. Et jazakallah khair pour la question. Moi, j'avais seulement peur que tu dises que, de nos jours maintenant, on ne va plus égorger les moutons, on doit égorger les loups. J'ai dit, Inch'Allah, il ne va pas dire ça, c'est tout. Et puis, si tu n'as pas dit ça, alhamdoulilah. Donc tu es d'accord avec moi qu'on égorge des moutons, c'est l'essentiel. Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, naam, ou bien je te donne la réponse, ou bien c'est toi qui nous donnes la réponse. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.